Alors d'abord, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on a une obligation de manger la mitzvah, la mitzvah, la matzah à Pessah. Alors vous, comme vous l'avez tous appris à l'époque au Talmud Torah, parce que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte très vite, ils n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. Donc puisqu'ils n'ont pas levé la pâte, donc on mange une pâte qui n'est pas levée, d'accord? Bon, ça c'est bien quand on a 8 ans, c'est intéressant. Mais après, quand on évolue un petit peu, on voit que c'est pas possible d'imaginer que ça soit aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que puisqu'on a expliqué la semaine dernière qu'on ne pouvait pas manger du chametz pendant Pessah, d'accord? Donc de toute façon, puisqu'on ne pourrait pas manger du chametz, on était obligé de manger de la matzah. C'était où ça ou les pommes de terre? D'accord? Donc puisqu'on ne peut pas manger une pâte qui est levée, on est obligé de manger une pâte qui n'est pas levée. Alors on a expliqué que la matzah c'est une pâte qui n'est pas levée. Donc c'est bizarre. Comment la Torah, elle a donné deux mitzvot qui n'ont rien à voir. D'un côté, la Torah, elle a interdit de manger le chametz, donc la pâte levée. Et d'un autre côté, elle a donné une mitzvah de manger la matzah, donc une pâte qui n'est pas levée. Et je vous ai expliqué la semaine dernière, je pense que vous l'avez bien compris, puisque j'ai entendu des retombées de ce cours jusqu'à Marseille, hier soir. Les gens m'ont dit, vous savez, les gens ont été traumatisés par votre cours sur le chametz. C'est des gens de Marseille qui m'ont dit ça. J'ai dit ça, c'est marrant. Ça. Comme quoi, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont le millénium. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, a priori, c'est bizarre. D'un côté, on a une mitzvah de ne pas manger du chametz. Et là-dessus, la Torah, elle a dit que celui qui mange du chametz pendant Pessah, on a dit, c'est karet, donc il est retranché du peuple d'Israël. D'un autre côté, il y a une mitzvah le soir de Pessah, que le soir de Pessah, d'accord? Pendant les autres, toute la semaine, vous pouvez manger, si vous voulez, des pommes de terre ou ne pas manger de matzah. Mais le soir de Pessah, le soir du 15, Nissan, on est obligé, Minatora, de manger de la matzah. Et ça, c'est une mitzvah assez, c'est une mitzvah positive. Et c'est aussi marqué que la personne qui ne fera pas cette mitzvah le soir de Pessah de manger de la matzah sera aussi retranchée. Il y a que deux mitzvot assez, deux mitzvot positives sur lesquelles si quelqu'un il ne les fait pas, il ne les accomplit pas, il est retranché. C'est quoi? Si quelqu'un toute sa vie ne fait pas la mila, d'accord? Normalement on l'a fait à 8 jours, bon il y en a ils ne l'ont pas fait. Si quelqu'un toute sa vie n'a pas fait la mila, on parle de quelqu'un qui n'a pas fait la mila volontairement, pas quelqu'un qui ne l'a pas fait parce qu'il ne savait pas ou parce qu'il vit dans un pays où c'est dangereux pour la vie. Mais si quelqu'un n'a pas fait la mila toute sa vie, ou si quelqu'un n'a pas mangé la matzah le soir de Pessah. C'est les deux mitzvot assez, les seuls où il y a chiyuv karet. Il y a un karet, c'est les seuls. Donc nous, on se dit, et pourquoi est-ce que les bénis Israël, ils doivent manger la matzah le soir de Pessah? Pour commémorer que puisque les bénis Israël sont sortis d'Égypte en vitesse, donc c'est historique. En bataille, c'est impossible d'imaginer que la Torah, elle peut rendre Hayav Karet quelqu'un sur un fait historique. C'est comme si quelqu'un dit, puisque tu n'as pas allumé les lumières de Hanouka, donc tu dois mourir. Oh, ça va, oh. Si on dit que la matzah, c'est pour commémorer, encore une fois, comme à l'époque au Talmud Torah, on t'a dit, de la même manière que les bénis Israël ont mangé la matzah, alors nous aussi on mange la matzah. C'est une commémoration. Vous comprenez? Comme les gens, ils prennent la matzah. Matzah Joe. C'est une matzah américaine. C'est pour la... Simsilinou. D'accord? C'est pas possible. C'est impossible d'imaginer qu'on va mettre une punition tellement grave pour une chose qui est seulement une commémoration. Deuxièmement, c'est difficile de parler de commémoration parce qu'on sait que Avraham Avinu, qui a fait les 613 mitzvot, oui, parce qu'on dit il a appris par ses reins, il a appris les 613 mitzvot, Avraham Avinu, il a fait aussi la mitzvah de matzah. Alors vous croyez que Avraham Avinu, il a mangé la matzah en souvenir que les bénis Israël, ils vont manger la matzah? Je sais pas si vous. On sait que c'est compliqué la religion, mais quand même, c'est pas possible. Donc c'est impossible d'imaginer que le principe de manger la matzah, il soit simplement lié à une commémoration d'un événement historique, qui est que les Béné Israël n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. D'accord? Alors c'est quoi? Il dit au Rachaz, en vérité c'est exactement l'inverse. C'est que Akadosh Baruch Hu, au départ, avant la création du monde, il avait la mitzvah de matzah à transmettre. Alors pour transmettre la mitzvah de matzah, il a organisé la sortie d'Égypte. Donc Avraham Avinu qui a fait toutes les mitzvot, il a fait aussi la mitzvah de matzah. Mais la mitzvah de matzah, il peut la faire même s'il n'y a pas la sortie d'Égypte. Donc, on va pas dire que la matzah, elle vient en commémoration de la sortie d'Égypte, puisque de toute façon, on l'aurait fait cette mitzvah. Maintenant, on l'aurait fait d'une autre manière. Akadosh Baruch Hu, il aurait trouvé une autre occasion de nous enseigner la mitzvah. Mais toute la, faut s'imaginer maintenant. Exactement comme un metteur en scène. Un metteur en scène, il veut faire passer une idée. Alors, pour faire passer l'idée, alors il écrit un scénario, il fait une mise en scène, il prend des acteurs. Mais tout le but de toute cette organisation, c'est quoi? C'est que les gens, quand ils sortent du film, ils disent, tu vois, j'ai compris ce qu'ils voulaient faire passer. Alors Hachem, c'est un très grand metteur en scène. Mieux que Cécile B2000. Il voulait faire passer quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut faire passer à Kadosh Baruch Hu? Il veut faire passer la mitzvah de la matzah. Alors il organise toute la sortie d'Égypte. Oui. Pour que les ministres ils sortent vite. Et puisqu'ils sont sortis vite, alors on va manger la matzah. Donc c'est une circonstance pour enseigner la mitzvah de matzah. Donc la mitzvah de matzah, elle est prioritaire sur la sortie d'Égypte. C'est pas qu'on dit on va manger en souvenir de la sortie d'Égypte, mais non. Puisque c'est la sortie d'Égypte qui a été faite pour que tu fasses la mitzvah de la matzah. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la mitzvah de matzah qui surplombe la sortie d'Égypte, qui oblige tout Dieu à organiser toute l'histoire pour nous enseigner cette mitzvah? Alors la semaine dernière, on a expliqué que le principe du Hametz, un des grands axes de compréhension du Hametz, c'est le principe du Chisaron, c'est le principe du manque. Or, on a bien expliqué que Hachem, il a dit qu'on n'a pas le droit de fabriquer la matzah tant qu'on n'a pas détruit le Hametz. Exactement pareil. Tant qu'un homme est manquant, alors il ne peut pas parler de plénitude. Vous allez me dire, mais c'est normal, parce que celui qui est vide, il n'est pas plein. Rabotai, c'est un hidouche extraordinaire. Le vide, ça se détruit. Et quand tu as détruit le vide, ce qu'il y a à la place, c'est du plein. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la Torah ne t'a pas demandé de te remplir. La Torah, elle t'a demandé d'enlever le vide. Je donne la preuve. Vous voyez, un type, il vient, il a un problème. Si tu arrives à lui prouver que c'est un faux problème, tu n'as pas réglé le problème. Mais il n'a plus de problème. Tu vois, par exemple, quelqu'un, il n'arrive pas à assumer. Il dit, ouais, j'ai un problème là. Mais toi, tu vois que c'est un problème de confiance en lui. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu as une télécommande réglable au laser et tu lui touches son centre de confiance en lui et tu lui augmentes la densité de confiance en lui. Et d'un seul coup, il n'y a plus de problème. C'est ce qu'ils disent les Chachamim. Adam Chasser, l'homme, il est manquant. Maintenant, c'est quoi le principe de quelqu'un de manquant? C'est de croire qu'il faut combler le manque. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de manger pour combler le manque. Il essaie d'avoir du fric pour combler le manque. Il essaie d'acheter encore une maison. Il veut encore un costume pour en mettre plein la figure. Encore une copine. C'est pas comme ça que tu vas combler le manque. Pour combler le manque, il faut détruire l'origine du manque. Maintenant, quand tu as détruit l'origine du manque, tu es plein parce que tu n'es plus manquant. Exactement pareil. Si on veut faire la matzah, il faut détruire le Hametz. Pourquoi? Parce que le Hametz, c'est la notion du vide. Mais ce vide-là, il est réel ou il n'est pas réel? Ce vide-là, c'est toi qui le crée. C'est ta dépendance. C'est ta dépendance au manque. Tes mauvaises qualités, c'est ta dépendance au manque. Ton problème d'argent, c'est une dépendance au manque. Le regard de l'autre, c'est une dépendance au manque. Parce que tu n'es pas construit, alors tu as besoin du regard de l'autre. Parce que tu ne t'acceptes pas, alors tu as besoin qu'on te dise que tu es bien. Parce que tu crois que les gens riches sont riches, alors tu voudrais être riche. Parce que tu crois que les gens qui ont des biens, ils sont heureux, alors tu voudrais être riche. Mais non, c'est un manque. Non, toi, tu dois régler dans ta tête le manque. Quand tu as réglé le manque, tu n'as plus de problème. Exactement pareil. Quand la Torah l'a dit, tu détruis le Hametz, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en détruisant le Hametz, tu es en train de fabriquer la matzah. Parce que si le Hametz, c'est le manque, alors la matzah, c'est le plein. Le plein. Alors c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la symbolique du plein dans la pensée juive? Ce que nous, on appelle la shlemout. Parce que la shlemout, ça vient du mot shalem. Shalem, c'est entier. Alors on a compris maintenant, quelque chose qui est entier, c'est quelque chose qui est plein. Par exemple, quelqu'un, il se connaît. Voyez, on explique que la hanava, c'est quoi? La modestie. Ze amakir et mekomo. C'est lui qui connaît sa place. Et ça, c'est une chose que les gens ont du mal à comprendre. Les gens croient que quelqu'un qui est modeste, c'est une serpillière. C'est celui qui baisse la tête, c'est celui qui se traîne. C'est pas grave, je peux te marcher sur la figure, c'est pas grave. Tu peux me remettre sur l'autre côté, mais c'est pas de chez nous. Oui, c'est pas grave. Non. La Hanava, il dit le Nefesh HaChaim, la modestie, Zeh Makir Et Mekomo, celui qui connaît sa place. Maintenant, si ta place est d'être grand, la modestie, c'est d'être grand. Si ta place est d'être petit, la modestie, c'est d'être petit. Tu sais, tu sais travailler. Tu es un bon vendeur. Si tu dis je suis un bon vendeur, tu n'es pas un frimeur. Tu dis pour qui tu te prends. Non. Je sais ce que je sais faire. Je suis pas chirurgien, mais je suis un bon vendeur. Je sais. C'est pas de l'orgueil. Maintenant, si tu es un mauvais vendeur et tu dis je suis un bon vendeur, et après quand t'as attrapé et que t'as fait des mauvaises ventes, on te dit comment ça se fait que t'as dit que t'étais un bon vendeur. J'ai dit ça pour m'encourager. Ça s'appelle un menteur. Maintenant, un menteur, c'est toujours quelqu'un qui est plein de bonnes intentions. Mais seulement que pour lui, le passé et le futur, c'est la même chose. Alors lui, il se dit, bon, de toute façon, comme demain, c'est comme les gens qui disent, t'as fait ce que je t'ai dit? Oui. Il l'a pas fait. Mais comme il veut le faire, il dit qu'il l'a fait. Alors comment ça se fait que j'ai pas reçu la réponse du mec à qui tu devais envoyer le fax? Il dit parce que c'est lui qui a négligé. Donc celui qui n'arrive pas à devenir ce qu'il est censé devenir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme s'il était déjà devenu, ce qu'on appelle un menteur, oui, en attendant que lui-même, son être, il rejoigne son paraître. Mais là, il a attrapé une grave maladie parce qu'on s'habitue à être ce qu'on est censé être. Une grave maladie qui est très connue en psychiatrie qui s'appelle « tu te la joues ». Je crois que tu te la joues, là. Mais convaincu, hein. Il dit « Non, pas du tout, je suis pas nerveux. C'est pas la méthode Coué. T'es nerveux. Accepte, t'es nerveux. Tu vas régler ton. Non, je te dis non. Oh, t'es têtu. Non. Oh, t'es parano. Non, tout le monde m'en veut, je sais, mais je suis pas parano. Non. Exactement pareil. La chlémoute de la personne elle-même déjà, que la personne elle-même par rapport à elle-même, elle est une matza. Ça veut dire quoi? Qu'elle connaît sa place. Qu'elle est complète, qu'elle est entière, il n'y a pas de vide. Je vous ai déjà expliqué un milliard de fois que la puissance de l'agression extérieure dépend du vide intérieur. Donc si t'es plein, il n'y a pas d'agression. Maintenant, t'as pas à te plaindre de la gravité des agressions. Tu as à te plaindre de la place que ça prend chez toi. Et la place que ça prend chez toi, c'est le vide que tu contiens. Parce que tu n'es pas plein. Tu as de l'air en toi. Tu dois remplir cet air. Donc tu te construis. Quand tu te construis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ce qui est marqué ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un est plein, ou quand quelqu'un est dans une dynamique de devenir plein, si cette dynamique elle est sincère, c'est pas qu'il a promis qu'il va prendre un TGV en marche, c'est qu'il a promis qu'il va sauter dans un train de banlieue. C'est bon, il peut promettre. Et la dynamique de devenir, elle lui donne l'extension de ce qu'il est censé être. C'est bien. Mais pas sur quelque chose qui est insurmontable. Il va pas se prendre pour Baba Salé. Comprenez? Si quelqu'un se dit, moi, demain, je vais finir le Talmud. Dibli Neder. Tu sais même pas par quoi ça commence. Par contre, si quelqu'un dit, voilà, je me lève pas toute la semaine à la prière. Je vais me lever 2 jours par semaine. Il peut le faire. Il va pas attraper un arrêt cardiaque s'il entend un réveil sonner. Et il peut le faire, il peut le faire. Mais s'il dit, maintenant, tous les matins, je vais me lever à 4 heures. Je vais faire Tikkun Hatzot à minuit. Après, je vais faire des Tehillim jusqu'à 2 heures. Après, je vais faire du Zohar jusqu'à... Arrête, Hugo. Et pourquoi tu n'as pas confiance en moi? Non, non, non. Toi, tu n'as pas confiance en toi. Toi, tu parles en l'air. Combien de fois j'ai dit à des gens, je suis surpris par l'assurance que vous pouvez prendre à affirmer des choses que vous ne savez pas. C'est extraordinaire. Il y a des gens comme ça, ils arrivent. Mais oui. Oh, c'est beau. Vraiment, ça me rassure. Je dis, ben tu vois, je sais que tu mourras bête, mais ça me fait plaisir quand même. Mais t'es bête ou quoi? C'est pas vrai! Arrête de te parler! Arrête, tais-toi! J'ai compris. T'as pas compris? Je sais. Tu sais pas. Mais je suis comme ça. Mais non, t'es pas comme ça. Regarde ta vie. Mets une caméra en dessous de ta tête. Tu vois bien que t'es pas comme ça. Tu me dis que t'es calme. Regarde ta tronche. Tu me dis que t'habites à Rennes. Regarde ta tronche. Tu t'arrêtes pas de paniquer. Tu débranches les ampoules tellement t'as peur qu'on use l'électricité. Tu me dis que t'habites à Rennes. Dis, j'ai pas habité à Rennes. Voilà, j'ai peur. Voilà, tu veux savoir, je vois un papier de la banque, je meurs. Ah voilà, maintenant on sait d'où on démarre. Je l'émoute en soi-même. Que la personne, elle est construite, Mais le chidouche, c'est quoi? C'est que même si la personne n'est pas construite, à partir du moment où elle est dans une dynamique de construction qui est sincère et qui est accessible, elle a exactement le même bénéfice que si elle avait atteint le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on dit, quand quelqu'un il est osek ba mitzvah, quand quelqu'un il est occupé à une mitzvah, c'est pas seulement quand maintenant en temps réel il est en train de faire une mitzvah. Même quand il est en train d'aller pour faire la mitzvah, le fait d'aller pour la mitzvah, ça compte dans la mitzvah. Ça s'appelle osek ba mitzvah. On va dire exactement la même chose. Quelqu'un qui travaille pour sur quelque chose, même s'il n'a pas encore atteint le résultat, mais qui fait un travail sincère, alors pour l'instant, il a exactement le même effet que le résultat. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce qu'on lui demande, c'est de ne pas s'empêtrer dans ses acquis et de ne pas s'empêtrer dans ses lauriers. Donc, il bouge. Tant qu'il bouge, il est tranquille. Exactement pareil que quelqu'un qui est au pôle Nord. Bouge, bouge, bouge. Vous savez, quand vous êtes au pôle Nord et qu'il fait moins 70, au bout d'un moment, le froid, il vous endort. Pourquoi? Parce qu'il pénètre. Il commence à geler les membres un après l'autre. Et puis, il y a un état second comme ça. Si vous lisez les livres un petit peu, vous allez voir. Il y a un état second où le type, il a envie de s'endormir. Oh, c'est bon. C'est bon. Alors, il rentre en espèce d'hibernation, un demi-coma comme ça. Ben, il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'être au pôle Nord pour ça. Comprenez? Il dit, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, puis les autres, ils m'empêchent, et personne ne m'aime, ils sont pris dans un froid. Il dit, tout le monde est froid avec moi. Il rentre en hibernation. Faut pas t'arrêter, tu t'arrêtes pas. Fais des mouvements. Fais circuler le sang à l'intérieur de toi. Reste vivant. Parce que si tu arrêtes la circulation du sang, c'est pareil. Ça, c'est quoi? La matzah. La matzah, elle est pleine, et la matzah, c'est une pâte qui est travaillée. Tant qu'elle n'est pas cuite, la matzah, il faut la travailler. Tant que tu la travailles, elle devient pas hametz. C'est exactement pareil. Soit on cuit la matzah, ça veut dire que tu finalises, tu atteins quelque chose. Tu veux quelque chose avec quelqu'un, déjà avec toi-même, tu dis, oh, j'arrive pas à travailler. Vas-y, essaye une fois, t'as réussi. Deux fois, t'as réussi. Trois fois, t'es devenu un travailleur, c'est bien. Pendant que t'es devenu un travailleur, la matzah est cuite, c'est bon. T'as atteint un niveau. Après, tu te poses une autre échéance, t'as atteint un deuxième niveau, un troisième niveau. Il y a des gens, ils disent, oh, moi, j'ose pas m'engager dans le premier niveau parce que j'ai peur de retomber. Oui, c'est cette blague. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils disent, ah, je fais pas teshuva parce que, et après, c'est très, alors, je vais mettre les tifines tous les jours, et après, je vais à la Natania, alors à quoi ça sert? Alors, je préfère ne pas mettre les tifines. Il y a des gens comme ça. C'est une maladie grave. Ouais, c'est un type qui dit, si je peux mourir demain, autant mourir aujourd'hui. Ouais, c'est... Alors, moi, je dis, mais il y a quand même des choses dans la vie sur lesquelles t'as réussi à t'engager. Je suis pas du tout pratiquant. Mais il y a quelque chose sur lesquelles t'as pu, je dis, par exemple, est-ce que tu es capable de mettre les menottes à ta mère, de l'allonger par terre, de prendre 3 mètres d'élan et de lui mettre un coup de pompe en pleine tête? Mais vraiment, tu bois 3 verres de Maria, tu t'imagines, c'est la finale de la Coupe du Monde, c'est le dernier penalty, tout dépend de toi, tu as dessiné des carreaux sur la tête de ta mère, comme ça, tu prends un élan de 4 mètres, tu dis, je vais le marquer. Même le moins religieux des moins religieux, moi le moins juif des juifs, il dit, ah, ça je peux pas faire. Ah, tu vois que t'arrives à t'engager sur quelque chose? Si vous allez dire, non mais, vous allez prendre un exemple un peu exagéré. C'est une question de sensibilité. Une fois j'étais chez quelqu'un. Il me dit, non, je ne suis pas juif. Je vous êtes pas juif? Non, je ne suis pas juif. C'est vrai que mon nom a une certaine consonance, mais je ne suis pas... Je dis, vous êtes pas juif? Il m'a dit non. Je dis, vous pouvez faire pipi sur un Sefer Torah? Il m'a dit, ah! C'est un parchemin, je t'en prie, un parchemin de ça, un parchemin. Il m'a dit, khalam. Quel khalam, d'où tu connais? Ça veut dire que chacun, il a sa limite. Comme on a une limite supérieure, on a une limite inférieure. Cette limite inférieure, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit stop. C'est quoi ça? Quand t'as entériné quelque chose dans ta vie. N'importe quoi, t'as entériné la cacheroute. Maintenant, même pour $1 million, tu manges pas un morceau de jambon. T'as entériné. Maintenant, t'as pas encore entériné Shabbat. De la même manière qu'avec la sensibilité, t'as entériné la cacheroute, demain tu vas entériner Shabbat. Avec la sensibilité. Maintenant, quand t'as entériné Shabbat, ça veut dire que la matzah elle est cuite. Stop. Tu montes. Maintenant, quand elle est pas cuite, t'as peur de retomber. Sauf si tu pétris la pâte. Donc quand t'es occupé à construire ton évolution, tu risques rien. Les gens dangereux, c'est les gens qui s'arrêtent de pétrir et qui n'ont pas atteint la cuisson. Ils vont retomber. Et vous allez me dire, mais alors pourquoi ils arrêtent de pétrir s'ils n'ont pas atteint? Vous savez pourquoi? Toujours la maladie psychiatrique. Ils se la jouent. Il dit, mais j'ai atteint. D'ailleurs, tout le monde lui dit, mais t'es cuit. Il croit. C'est long. C'est long, Rabotaï, c'est long. C'est du temps, c'est des années. Des années. Regardez, la colère, par exemple. Moi, j'ai travaillé sur la colère, j'ai étudié la colère, j'ai fait des cours sur la colère, j'ai enseigné la colère, jusqu'à ce que j'ai eu une vraie épreuve de colère. Une vraie, pas une petite... Une vraie épreuve, une vraie déception. Une vraie, un truc qui te prend comme ça, de, tu t'attends pas de quelqu'un vraiment que t'estimes et que t'as envie de lui éclater la tête. Et tu sors, et tu rigoles, et t'as rien fait. Tu dis... Ah. Et là, tu comprends pas, il dit, mais quoi? Tu dis, t'as pas travaillé pour rien. C'est ça le pire. Alors les gens, ils croient, parce qu'ils ont atteint la culture, ils ont compris. Ils disent, mais j'ai compris. Ça t'appartient pas, t'es pas devenu. Il faut acquérir les choses. C'est ça qui fait. Tu fais jusqu'à ce que tu deviens. Ça lâche les moutes. Mais la culture, ça ressemble à lâche les moutes. Regardez le zirconium, ça ressemble à du diamant. Ça ressemble. Mais c'est cassant. Ça se casse. Une fois, j'ai amené un zirconium à un diamantaire. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est trop parfait pour être du diamant. Mais c'est pas possible qu'un type comme toi, il ait un diamant aussi parfait que ça. Donc c'est du zirconium. Exactement pareil. Quand tu vois quelqu'un, oh, mais non, shalom, mais pas du tout. Vraiment, je l'ai fait avec mon cœur et ta sœur. Comment? Il y a 4 semaines, t'as fait tes chouvas, d'un seul coup, t'es devenu Baba Salé. Et alors, si on est bien concentré, qu'on fait vite? Non, c'est pas vrai. Le pain, il met 20 minutes à cuire. Tu as fait en 3 minutes, il est mort. C'est comme ça. Une disserte, on met 4 heures. T'as mis 5 minutes, tu l'as recopié. Je te promets, j'étais inspiré comme ça. Ça m'est rentré comme ça. J'ai senti que l'esprit de la Martine y rentrait en moi. Quelle Martine? Martine, c'est une prof de philo. Je lui ai donné 100 balles, elle m'a fait... C'est quoi que la personne, elle trouve cette shlemout par rapport à elle-même. Mais il y a aussi la shlemout que quelqu'un doit atteindre par rapport à l'équilibre. C'est quoi l'équilibre? L'équilibre, c'est une espèce de contrepoids très compliqué à maintenir entre ton être intérieur et ton être extérieur. Je vous ai déjà expliqué que le monde physique, le monde extérieur, il est matière et il est temps. Donc il est très lourd, il est très dense. Le monde intérieur, il est idée, il est ambition, donc il est très flou. C'est comme si vous prenez une perceuse et vous la faites tourner dans l'air. Elle tourne très bien, elle tourne très bien. Mais si la perceuse, le forêt de la perceuse, vous le mettez dans de la fonte en fusion et vous attendez que la fonte, elle sèche. Et quand la fonte, elle a séché et qu'elle est soudée maintenant avec votre forêt, appuyez sur la perceuse, vous savez ce qui se passe? C'est vous qui allez tourner autour. Ben exactement pareil. Le monde intérieur, il est extrêmement léger, il est extrêmement flou. Mais le monde extérieur, il est extrêmement dur. Donc quand tu as une idée dans ta tête, ça prend 3 secondes. Quand tu as une ambition, ça prend 5 secondes. Quand tu as une illusion, ça prend une demi-seconde. Mais quand cette illusion, elle rentre dans la réalité, tu as l'impression de prendre un choc à 2000 km/h en pleine tête, comme ça. Boum ! Ça dépend à quelle vitesse tu rentres. Vous savez, l'eau, par exemple, l'eau, c'est agréable, l'eau. Vous avez déjà pris une douche? C'est agréable? T'as l'eau qui coule sur toi, c'est doux. Mais imagine un petit malin, il a enlevé la douche, il a mis un Karcher. À la place. 800 mégatonnes. C'est marrant, il y a de la viande hachée en... c'est ton cousin. C'est pareil. Si tu plonges dans une piscine, il t'arrive rien. Mais si tu sautes d'un hors-bord à 400 à l'heure, on trouve sur toi des hématomes comme si tu avais rencontré un mur. En sortant de la voiture. Pourquoi? Parce que la densité, elle dépend de la vitesse à laquelle tu l'abordes. Alors imagine-toi, le monde extérieur, c'est du béton. Le monde intérieur, c'est de l'air. Quand toi, tu as une idée que tu veux la réaliser, si tu es une IA, si tu confonds tes rêves et tes réalités, si tu n'arrives pas à accepter la difficulté de la réalisation, si tu ne mets pas la puissance qu'il faut pour traverser, d'accord? Donc c'est comme si tu sors en maillot de bain avec ta petite serviette, tu sors au pôle Nord. Oh. Une statue de glace. Les gens disent, tu sais, c'est, j'étais glacé par la réalité des faits. Tu t'es pas préparé. T'as pas construit. Faut mettre des manteaux, tu vas sortir dehors, faut assumer. Oh mais je croyais que moi je croyais que c'était comme Walt Disney, je croyais que c'était comme dans les rêves, je croyais que c'était comme dans ma vie. Mais non, c'est pas comme ça, c'est différent. La vie elle est froide, la vie elle est dure. Ah, si tu mets un manteau, c'est bon. Si tu mets pas de manteau, eh ben tu grelottes. Tu te prépares pas à l'examen. Tu dis, oh il est dur l'examen. Mais non, il est dur comme ta glande. Très dur. Du tungstène de flemme. Oui. Comme le type, il sait qu'il a un forêt au tungstène, mais il a la flemme de le chercher. Alors il prend un forêt à 2 francs, il a pendant une semaine pour faire un trou. Va chercher ton forêt. Exactement pareil. Tu ne veux pas te donner les moyens de devenir ce que tu es censé être. Tu ne veux pas donner la motivation. Tu ne veux pas mettre la détermination. Donc automatiquement, ton être intérieur, c'est un gros bébé. Quand un gros bébé, il arrive à l'ENA, il se fait déchirer. Il dit, allez monsieur, mettez-moi 20. Je ne te comprends pas. Allez quoi, laissez faire quoi, c'est pas grave. On n'est pas à l'ENA, on est à l'ENA. Il ne comprend pas. Je comprends pas. C'est pareil. Quand il emprunte de l'argent, oh oui, je t'en prie, je te jure. Après, pour le rendre, oh, c'est pas grave. Toi, tu dis, excuse-moi, je voudrais parler au mec qui m'a emprunté. Parce que le type qui m'a emprunté, c'était un mec rassurant, qui avait l'air d'être sérieux et engagé et mature. Et le type qui veut pas me rendre, on dirait un gamin d'où il sort. Il y a 2 mecs en toi. Qui c'est le deuxième? Je le connais pas, je voudrais l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre ton être intérieur et ton être extérieur, il n'y a pas équilibre. Or, je vous ai déjà expliqué que l'équilibre, il est synonyme de simcha, de joie. Et que la joie, elle est synonyme de shlemout, d'entité. Quelqu'un qui est entier, ça veut dire qu'il est en équilibre entre son être intérieur et son être extérieur. Mais c'est très dur! Parce que, pour être en équilibre, il faut que ça se réalise. C'est-à-dire que quand tu as un projet, que ça se réalise, t'es en équilibre. T'as pas vu les gens, ils sont contents quand ça marche? Ils sont toujours contents. Quand ça marche pas, ils font la tête. Alors, soit ils comprennent que c'est à cause d'eux, soit ils pensent que c'est à cause des autres. Alors ils fabriquent comme ça des espèces de cahiers justificatifs. On m'a pas aidé, on m'a pas écouté, on m'a pas compris, on m'a pas aimé. Pauvre chérie, tu veux un pistolet? Ah, Botaï, c'est pas shoot. Si tu vas monter 30 mètres, tu prends une corde de 30 mètres. Maintenant, t'as pas emmené la corde, c'est pas la peine de pleurer. Tu veux rouler, tu veux faire Paris-Dakar? Emmène une voiture. Pourquoi faire? Ben reste sur place. Il est à Paris. Il verra jamais Dakar, celui-là. Ça veut dire quoi? C'est que ton être intérieur, il te permet de fabriquer, on va dire de manière virtuelle, ton projet. Il te permet de préparer la motivation. Il permet de te préparer psychologiquement. Et cette énergie-là, qu'on va appeler de l'air comprimé, c'est elle qui va projeter dans la réalité ton projet. Maintenant, quand le projet projeté, il se réalise, c'est pour ça qu'on appelle ça un projet, c'est pour projeter, d'accord? Quand il se réalise et qu'il y a une réalité extérieure qui correspond à ton rêve intérieur, on dit équilibre. Mais si tu ne donnes pas les moyens, alors ton être intérieur, il est rêve. Et ta réalité, elle est obscure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça fait... Si un jour, vous arrivez, vous partez en vacances, quand vous arrivez en vacances, c'est ce que vous faites? Vous prenez une loupe et vous regardez la tronche d'un moustique éclater sur votre pare-brise. C'est très intéressant. Moi, je l'ai fait souvent. Vous devez vous demander, à quoi il a pensé au moment où il a rencontré le pare-brise? Il était né ce matin, le pauvre Nia. Il part de la rivière, là-bas. Il est en train de voler, comme ça. Et il commence à sentir la chaleur. Oh, ça sent le goudron ici, c'est quoi ça? Et puis, il est là. Bien, puis il rentre sur l'autoroute. Et il y a un pare-brise qui arrive. Pah! Ça doit faire un choc, quand même. Regardez sur sa tête, on sent qu'il est choqué. Il est éparpillé, même. C'est vrai. Si vous allez me dire, non, mais c'est morbide, vos exemples. Mais moi, je vous donne des exemples de moustiques. Mais regardez autour de vous les loustiques qui ont pris le pare-brise de la vie en pleine tête. Vous les voyez pas? Vous savez pas ce que j'ai vécu. Je crois que vous avez vécu un choc d'inadaptation. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Vous comprenez? Les gens ils disent, moi je me faisais une certaine idée du travail quand j'étais à la fac. Moi je me faisais une certaine idée du mariage. Moi je me faisais une certaine idée de mon mari. Je me faisais une certaine idée de ma femme. Je me faisais une certaine idée de la femme. Je me faisais une certaine idée des parents. Je me faisais une certaine idée d'Israël. Mais arrête avec tes rêves. Arrête. Les gens, Israël. Va pendant l'hiver. Pourquoi tu vas pendant l'été? Va pour travailler, ne va pas en vacances. Parce que quand tu viens à Natania, tu dis, oh, c'est bien, tout le monde rigole, tout le monde est sympa. Mais t'as pas compris, tu lâches à chaque fois le pourboire. Va en hiver, tu dis, excusez-moi, dégage. Tu dis, monsieur, j'ai perdu. Réga. Non, mais là, je vais rater le train. Réga. Bon, je vais vous donner 1000 shekels, vous allez me rendre la monnaie. Save la note. Mais vous m'avez arraché la voiture. Sauve la note. Mais il faut être. C'est fatigué. C'est une erreur à la panime. Vous comprenez? Exactement pareil. Donc le choc, la violence du choc, elle vient du manque d'adaptation. Et le manque d'adaptation, c'est ce qui va faire que tu as que la moitié. Comme tu as que la moitié, que tu as que la moitié et pas l'autre, donc il n'y a pas d'équilibre. Or, c'est quoi l'équilibre perpétuel? L'équilibre perpétuel, c'est que ton projet se réalise, équilibre. Ton idée se réalise, équilibre. Ta volonté se réalise, équilibre. Maintenant, tu as deux solutions. Soit elle va se réaliser parce que tu as tout fait pour que ça se réalise. Soit tu vas faire comme si elle s'était réalisée. Soit tu vas embêter les gens jusqu'à ce que ça se réalise. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu vas être toi-même. Ça, c'est les shlemout, équilibre. Or, toute la vie, c'est que des moitiés. Vous n'avez pas compris, c'est que des moitiés. Hachem, il te pose une question, toi, tu as mis une réponse. Ton père, il attend quelque chose de toi, tu lui donnes. Ton professeur, il te met à l'épreuve, toi, tu rends la disserte. Maintenant, tu peux expliquer pourquoi tu l'as pas fait. Tu peux avoir des circonstances atténuantes. Mais tu l'as pas fait. À cause de ça, d'avoir des circonstances. Vous comprenez? Les gens disent, oh, j'ai un dossier médical pour expliquer pourquoi j'ai refait 28 fois le CP. Bon. Mais quel dossier? Avec des radios et tout. Regardez, déjà, pendant 1800 fois, il n'a pas trouvé la route de la maternelle. Il tourne. Et à chaque fois, il se retrouve au café. C'est pareil ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la shlemout, l'entité, c'est quoi? Ambition, moyen, résultat. Ambition, c'est l'idée que tu vois avoir au départ. Moyen, c'est le pont que tu crées pour pouvoir l'atteindre. Résultat, c'est la satisfaction d'être. Maintenant, la dynamique du devenir, elle dépend de l'exercice d'être. Ça, l'équilibre. Donc la shlemout entre le monde intérieur et le monde extérieur, dans l'acte, elle va dépendre des moyens que tu donnes pour devenir. Les gens qui sont entiers, dans l'acte, qui sont des matzot, pas que d'un côté ils sont une matza et de l'autre côté ils sont une baguette. Ah, c'est pas joli. Vous comprenez? Ce qu'on appelle les gens instables. Ils parlent beaucoup, mais ils font pas beaucoup. Ils rêvent beaucoup, mais ils font rien. C'est marqué « Emor me'at ve'ase arbe ». Parle peu et agis beaucoup. Vous savez pourquoi ils ont dit ça, les Chachamim? Les gens, ils croient que ça veut dire, faut pas trop parler, faut y aller. C'est pas seulement ça. C'est qu'on a remarqué une chose. Les gens qui parlent beaucoup, ils n'agissent pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Alors vous allez dire, parce que c'est des menteurs. Non! Parce que pour eux, la dimension de l'acte, elle s'arrête à la parole. Donc quand ils ont fini de parler, ils pensent qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais celui qui veut faire, il a intérêt à s'arrêter de parler. Parce qu'il a dégagé une telle énergie pour parler que ça l'empêche d'avoir l'énergie pour faire. Et d'ailleurs, il te le dit. Quand il t'a expliqué, il dit, oh, je suis vidé. Tu m'as pas commencé. Alors ne parle pas. Garde ton énergie. C'est normal. C'est comme si quelqu'un doit traverser un précipice qui fait 10 mètres. Et il a 60 mètres à courir. Et au bout de 60 mètres, il saute et il passe les 10 mètres. Alors, il y a quelqu'un, on lui met un flingue dans le dos, on lui dit, vas-y, cours. Tu dis, mais je vais pas mourir. Non, tu vas pas mourir. Alors, comment je vais faire? Il y a un précipice de 11 kilomètres de profondeur. Cours! Tu cours. Alors, tu cours, tu dis, mais j'y arriverai pas. T'as 60 mètres pour apprendre à voler. Exactement pareil. Depuis l'âge de 8 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, on t'a laissé 12 ans pour apprendre à voler de tes propres ailes. Non, si tu fais le gaga, tu te nourris au Game Boy, tu te fais des intraveineuses d'Agatha Christie, tu te fais des 3-8 de télévision. Après, tu arrives à 19 ans comme ça. Tu dis, oh, qu'est-ce qu'il faut? Il faut voler. Voler? Voler. Mais je ne pourrai jamais voler, ça fait 20 ans que je rêve. On te dit, tu as 60 mètres pour apprendre à voler, commence. Exactement pareil. Ensuite, on demande à quelqu'un d'être entier, shlemut, dans sa tête. C'est quoi ça? Ça, c'est ce qu'on appelle Toro Kebaro, qu'un homme, il doit être intérieur comme extérieur. Ce qu'il dit et ce qu'il pense, ça doit être la même chose. C'est une discipline. Parce que c'est tellement facile d'enjoliver. Vous savez, il y a des gens, par exemple, ils ne veulent pas avoir une vie banale. Alors, ils vont enjoliver. Par exemple, il arrive en retard. Il ne va pas dire Rama, il n'a pas entendu le réveil. Il dit non, j'ai pris l'autobus, elle m'a regardé. Une grande blonde élancée. Elle m'a fait un clin d'œil. J'ai marché derrière elle pendant 4 mètres. À ce moment-là, il y a deux types qui sont arrivés. Les flingues. J'en ai éliminé un. Le deuxième, j'ai pas pu. J'ai pris la blonde. On a sauté dans l'autobus. Il a suivi avec une Austin. Il est passé sous l'autobus. À ce moment-là, il a placé la bombe. Mais on a changé d'autobus. Dis que tu t'es relevé en retard. Qu'est-ce que t'as besoin? Ah mais non, c'est bidon. Ils aiment pas avoir une vie bidon. Alors ils veulent enjoliver. Mais c'est dangereux d'enjoliver. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quoi l'ambition? L'ambition, c'est un mensonge que tu fabriques pour pouvoir anticiper sur la réalité. Qu'est-ce que c'est l'illusion? C'est un mensonge que tu fabriques pour pouvoir te débarrasser de la réalité. Mais au bout d'un moment, on a une capacité tellement puissante de fabriquer une illusion proche de la réalité que peut-être qu'on n'a plus besoin de la réalité. Et il y a des gens comme ça. Ils sont dans leurs rêves. Il va venir un matin, il va venir à une bar mitzvah d'un cousin, il va me dire, vous n'êtes pas marié? Je vais dire oui. Il va me dire, vous êtes sérieuse? Je vais dire oui. Vous voulez m'épouser? Je vais dire oui. Faleha, quel âge t'as? 42 ans, pourquoi? T'as intérêt à faire 3 bar mitzvot par jour. C'est pareil. La personne, elle comprend pas le monde intérieur, le monde extérieur. Toro Kebaro, il doit y avoir une équation entre toi et ton être, toi et ta parole, toi et ton acte. On te reconnaît dans tes actes, tu te reconnais dans tes actes. Je vous ai déjà expliqué ça. C'est l'équation de A égale B. Vous vous rappelez l'équation A égale B ou non? Il n'y a pas de redoublant là? Bah alors, il faut réviser les cours. Alors l'équation A égale B, c'est simple. Vous mettez une caméra numérique à l'intérieur de votre tête et vous relevez tous les éléments qui constituent votre façon d'être à l'intérieur de vous-même. Vous vous vexez pour ça, vous vivez ça comme ça, vous ressentez ça comme ça, vous rigolez quand vous n'avez pas envie de rigoler, vous êtes mal, vous ne comprenez pas, on vous adresse la parole, vous rougissez, tout ça vous le notez, c'est la proposition A. Après vous mettez une deuxième caméra numérique sur votre monde extérieur, votre façon de réagir. Vous dites tiens c'est marrant, je lui fais plaisir à lui. Tiens, lui, il me fait peur, alors je me mets à quatre pattes. Tiens, mon patron, je lui dis tout le temps merci. Tiens, ce pauvre-là, il me tend la main, je fais semblant de ne pas le voir. Vous ramassez tous les éléments de votre vécu extérieur. Ça s'appelle la proposition B. Et après, vous posez l'équation. Est-ce que A égale B? Et toutes les distorsions que vous trouvez entre A et B, c'est tous les endroits où vous n'êtes pas vous-même. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'être vous-même. Maintenant, qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Que A ressemble à B ou B ressemble à A. Attention. B, il est à 90% le produit du regard de l'autre. Faites attention. A, a priori, si vous connaissez, il est vous-même. Alors, c'est A qui doit ressembler à B ou B qui doit ressembler à A. Vous devez trouver l'équation, débrouillez-vous. Pour ça, vous allez utiliser le théorème très connu du professeur de qui je me fiche. Rappelez-vous de lui. Le professeur de qui je me fiche, c'est un professeur russe qui a émis un théorème très connu. Il a dit, quand tu sens que tu en fais trop, de qui je me fiche? Quand tu sens que tu en fais pas assez, de qui je me fiche? Ici, tu as un sens de qui je me fiche. Il te permet de savoir quand tu, comme quand tu mens, tu le sens que tu mens. Tu dis, oh, vraiment, je me suis surpris à mentir. Comment tu t'es surpris? Tu sais que tu mens. Quand tu te la joues, tu le sais. Quand c'est trop, tu sais. Quand c'est pas assez, tu sais. Alors tu vas nous trouver une espèce de longueur d'onde moyenne entre le trop et le pas assez. Et là-dessus, tu vas faire l'équation entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Ça s'appelle comment? Que tu vas être entier dans ta tête. Tu vas arrêter de mentir. Tu vas arrêter de te mentir. Tu vas arrêter de leur mentir. Tu vas arrêter d'attendre de te faire attraper pour expliquer pourquoi est-ce que tu as menti. Tu vas pas mentir. Alors quand tu vas attraper ce virus très très dangereux qui s'appelle le virus de la sincérité, et si vraiment tu y goûtes, mais il y a une telle plénitude dans la sincérité, mais t'es tranquille. Le menteur, il a toujours peur de se faire attraper, même quand il n'en est pas conscient. Mais celui qui dit ce qui est, à condition qu'il sache ce qui est, il est bien. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il y a toujours des petits rigolos parce que ça dérange les gens sincères. Il y a toujours des gens, on est trop facile pour qu'il se prend. Toi, tu laisses passer, laisse couler. De toute façon, rabotaille. Tant qu'il y aura des caniveaux, il y aura de l'eau dans les caniveaux. C'est comme ça. Tu dis, mais ça fait du bruit, les caniveaux. Oui, je sais. Eh ben, laisse-les. Ça fait. Il y a des gens, tu les écoutes, tu dis, oh, il pourrait quand même fermer son caniveau. Caniveau, il est arrivé. Exactement pareil. À partir du moment où quelqu'un, il va avoir cette shlemout, cette entité avec lui-même, c'est que ça matza dans son être intérieur et ça matza dans son être extérieur, ils vont être exactement de la même nature. Et regardez une matza, elle est fine. Il n'y a pas d'état intermédiaire. L'extérieur de la matza et l'intérieur de la matza, ils sont pareils. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Dans le pain, non. À l'extérieur, il y a la croûte. Il y a le doré. Il y a le croustillant. Puis après, il y a la mie. Puis à l'intérieur, des fois, c'est même pas cuit. C'est pareil. Il y a des gens à l'intérieur, ils sont pas cuits. À l'extérieur, ils ont l'air d'être efficaces, d'être des adultes. Mais à l'intérieur, c'est une pâte encore. Vous avez déjà mangé de la pâte? Vous savez, quand c'est pas cuit, ça, c'est, oh. Tu dis, oh, je vais pas le digérer, celui-là. Et ben, c'est pareil. Les gens qui sont pas cuits à l'intérieur, t'arrives pas à les digérer. C'est normal. Parce qu'ils n'ont pas trouvé le lien. Maintenant, on t'explique. Quand le lien entre l'intérieur et l'extérieur, il est court, ça cuit bien. Mais quand le temps entre l'intérieur et l'extérieur, il est long, ça cuit mal. Donc, les gens qui mettent longtemps à cuire. Par exemple, quand tu vois quelqu'un qui a 40 ans, il fait sa crise d'adolescence. Tu dis, à quel âge il va être cuit, celui-là? Oui. À 60 ans, il est encore susceptible. À 68 ans, il n'a pas encore capable de reconnaître ce que sa femme lui a apporté. Mais à quel âge tu vas comprendre? C'est que le début, ça, c'est rien. C'est que le début. Même ça, t'arrives pas. Oh non, 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 mais de toute façon, hein, elle est comme sa mère. À 68 ans. Ça y est, ça suffit, les gamineries. Non, non, mais de toute façon, elle a toujours une idée derrière la tête. C'est pas toi qui es un peu deb. T'es sûr, c'est pas toi qui es un peu malade mental? Mais t'as, c'est rien. La constatation de la réalité, c'est que le début. Quand on t'a dit, là, il y a le parterre, là, il y a le plafond, pour que tu cours au milieu, t'as rien fait. T'as pas encore sauvé le peuple d'Israël encore. Rien que tu sais où est le parterre, où est le plafond. Alors tu reconnais pas les mérites de tes parents, tu reconnais pas les mérites de ta femme, les mérites de ton mari, tu reconnais pas les mérites de tes enfants. T'arrives même pas à ça, t'arrives même pas à poser le décor. Mais c'est quoi? C'est rien. C'est zéro, ça. Déjà, ça lui coûte son ego. Il l'empêche. C'est trop. Ah, je vais lui dire merci, moi. Eh ben oui, c'est normal. Le gars, il t'a rendu service. Toute ta vie, tu lui dis merci. Alors ton père, tu peux pas lui dire merci? C'est incroyable. Quel ego. Ensuite, il faut fabriquer encore une autre matza. Je vous signale qu'on est en train de remplir un paquet de matzot, là, vous me suivez. Il y a une autre matza à remplir, c'est quoi? C'est la shlemut ima acherim. C'est d'être entier avec l'autre. Ça, c'est plus compliqué déjà. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une pâte qui est faite avec du blé. Et l'autre, il a une pâte qui est faite avec du froment. Ça existe, le froment? Un des cinq céréales. Parce que le maïs, c'est pas une vraie matza, c'est pas cachère. Donc avec du froment. Alors, maintenant, il faut qu'on pétrisse tous les deux notre matza pour arriver à faire une matza commune. C'est pas évident. Hein. Il y a du sang dedans. Ouais, mais la mienne, elle est plus riche, elle est plus enrichissante. Mais la mienne, elle est plus pure. Mais elle est plus sèche, elle est plus froide. Puis la tienne, elle est cassante, mais la mienne, elle est souple. Comment on va faire coller nos deux matzot? comme il a dit Sartre, il a dit l'enfer c'est les autres. Pourquoi? Parce que puisque le paradis c'est de trouver des gens qui sont d'accord avec toi, et que pour être d'accord avec toi, il faudrait que l'autre ça soit toi. Mais comme dans le monde personne n'est toi, donc tu risques pas d'avoir le paradis dans ce monde. Donc c'est l'enfer. Intéressant, hein? Ça il a dit Jean-Paul. Il a raison. Non, il a tort. Pourquoi? Parce que nous on pense que la différence de l'autre, c'est elle qui nous permet d'atteindre le paradis. Maintenant, quand tu acceptes la différence de l'autre, elle développe la complémentarité, donc tu grandis. Quand tu refuses la différence de l'autre, elle devient l'enfer, elle te crève les yeux. C'est que celui qui se sent agressé par l'existence de l'autre, c'est parce qu'il n'existe pas. C'est quand même grave pour un type qui a créé l'existentialisme. Pas si vous... C'est pas grave. D'accord. Exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça dérange pas. Il y a de la place pour tout le monde. Toi, t'existes. Lui, il existe. Maintenant, si on veut, on coexiste. Sinon, on va pas coexister, mais on peut quand même exister. Mais si toi, t'es complexé par le plus grand de la classe et que ça te dérange que l'autre, elle soit mignonne et que ça t'agresse que l'autre, elle ait du goût et ça t'énerve que l'autre, il soit riche. Mais c'est le droit à la différence, mon frère. On est tous différents. Quand tu te lèves le matin, il y a 5 milliards de personnes qui ne te ressemblent pas. Donc si ça te dérange quand c'est pas toi, mais tu vas être 5 milliards de fois dérangé. Et il y a personne qui te ressemble. T'es unique. Comme l'autre, il est unique. Toi, t'es unique. Donc, si tu acceptes pas la différence de l'autre, mais tu vas crever de nerfs. Parce que tu dis, mais l'autre, il m'empêche d'exister. Mais lui aussi, il veut exister. Eh, baba. Maintenant, toi, tu voudrais qu'il existe à ton profit, dont ton sens, à tes pieds. Là, tu dis, wow, je voudrais, wow, exister. Qui a dit que tu as le droit? Alors, il y a des gens qui n'existent pas, pour faire plaisir, ils appellent ça abnégation, nous on appelle ça suicide, d'accord? Il y en a qui existent par intermittence, on existe chacun son tour, d'accord? D'accord? D'accord. Toi, tu existes au squash, je dis pas aux gens que tu es nul. Quand tu racontes tes exploits, je dirai aux gens que c'est vrai. Et moi, tu me laisses exister avec la carte bleue, ça va. Ils font des arrangements. Chacun, il va exister. Ils existent par intermittence. Oui. Ou des gens, les deux, ils font semblant d'exister. Ce qu'on appelle un couple heureux. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Oui, c'est très bien. Alors, on va chez les Germains. Donc, faut sourire. Hein. Tu te rappelles? Le Kenya, c'est pas leur peine de leur dire qu'on s'est déchiré pendant 8 jours au Kenya. Ça sert à rien. On va leur dire que c'était super. On va pas leur dire que tu t'es cassé la jambe. On va pas leur dire que t'as fait caca dans ta culotte quand t'as vu un lion. On va leur dire que t'as pris ton fusil, tu l'as battu du premier coup. D'accord? D'accord, chérie? D'accord. Et toi, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, toi, on va dire que t'as perdu 40 kilos, qu'avant t'étais une tabosa et que maintenant t'es devenue Cindy. Ah! Ça te fait plaisir? Ouais. Alors, ils s'arrangent. Ils se créent une image et après ils vont chez leurs copains et ils étalent leur image, qu'on appelle la communication en français. Ils font de la communication. Et après, les gens, ils disent, un divorce? Oh, jamais, oh, vraiment, un couple comme ça, vraiment, j'aurais jamais cru. Parce qu'ils étaient bons en communication. Moi, j'ai l'habitude de traiter ce genre de cadavre. Faut jamais parler tant que tu n'as pas entendu l'intérieur. Tu vois rien. De l'extérieur, tu vois rien. Tu vois cette femme, tu l'as dit, elle est épanouie, elle est ouverte, elle est où? Elle comprend, elle est sensuelle. Après, elle te dit, son mari, tu dis, on n'a pas de relation toute l'année. Elle supporte pas. C'est les cœurs. Alors, soi-disant, l'a libérée. Tant que tu l'as pas vu de l'autre côté de la barrière, tu peux rien dire. Chut, tais-toi. Pourtant, de l'extérieur, ça avait l'air. Ouais, l'air. Mais pas les paroles. Y a rien. Incroyable. Faut s'habituer. L'autre, il veut te donner qui il est, laisse-le parler. Mais toi, c'est pas la peine de faire des combinaisons, je vais te dire qui il est, ça sert à rien. Parce que t'as 99 millions de chances de te tromper. Tais-toi. Ne gaspille pas des neurones à réfléchir dans la tête de l'autre. Ah, pourquoi les gens, ils le font? Parce que ça les rassure. Il fait des catégories. Les gros, les maigres, les nerveux, les religieux, les non-religieux, les cools, ça les rassure, ils se déplacent comme ça. On dirait les petits poissons qui ont peur du requin. Alors, ils font comme ça. Oh, un mérou. Un barracuda. Une sardine. C'est pas la vie, c'est pas le fond de la mer. Il y a de la place pour tout le monde. Et il y a un grand Martin Pêcheur là-haut, n'ayez pas peur. Exactement pareil. À partir du moment où quelqu'un il a compris qu'il doit être en accord avec l'autre, parce que l'autre, non seulement il est différent, mais non seulement il est complémentaire, mais en plus que l'autre, c'est lui en vérité qui va être le logiciel de démarrage de ton évolution. C'est qu'à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un de différent, si tu es capable de percevoir en temps réel qu'est-ce qu'il peut t'apporter, c'est lui qui va te faire passer d'une étape à l'autre. Donc dis merci. Toi t'es nerveux, on t'envoie des gens lourds. C'est pas pour rien. Toi t'es lourd, on t'envoie des gens nerveux. C'est pas pour rien. Toi t'es glandeur, on t'envoie des gens travailleurs. Ça te complexe. Si tu l'utilises, tu deviens travailleur. Toujours pareil. Donc il y a une schlemout, il y a une entité que quoi ? Que la Torah te demande de pétrir ta pâte avec la pâte de l'autre. On va faire une seule matzah. Alors aujourd'hui tu fais une matzah avec celui-là, demain tu fais une matzah avec celui-là, demain tu fais une matzah avec celui-là. Tu t'arranges avec ton professeur, tu t'arranges avec tes élèves, tu t'arranges avec ton patron, tu t'arranges avec ta, avec tout le monde. Et tu fais des matzot. C'est marqué « Altifroche minatzibour ». Tu te sépares pas de la communauté. Parce que la communauté pour toi, elle est signe d'évolution. C'est un vecteur. Tu grandis. Ensuite, tu dois faire encore une matzah. C'est quoi ? C'est d'être entier dans ton acte. C'est marqué dans Tana de Rabbi Yahou. Regardez bien. Hayav Adam Lomar, Matay Agiou Maasai Le Maasai Avotai Avraham Yitzhak Yaakov. Un homme, il doit dire, quand est-ce que mes actes vont arriver ? Regardez, Hayav Adam, un homme est obligé de dire, quand est-ce que mes actes vont arriver aux actes de mes pères, Avraham Yitzhak Yaakov ? Franchement. Qui c'est qui peut dire, tiens, demain, je vais être Avraham Avinu. Mais même l'âne de Avraham Avinu, c'est pas évident que tu vas être. Alors comment c'est marqué? Hayav Adam, un homme est obligé. Si on disait, tu sais, il y en a beaucoup qui rêvent, il y en a qui disent, quand est-ce que je vais être Avraham Yitzhak Yaakov? Mais c'est marqué, un homme est obligé de le dire. C'est Hayav. C'est-à-dire, chacun, il doit avoir de l'ambition de se dire, un jour, je vais être Avraham Yitzhak Yaakov. Qu'est-ce que tu rêves? La réponse, elle est simple. C'est que toi, par rapport à ton niveau, de la même manière que eux, ils ont été au bout de leurs capacités, toi aussi, ce qu'on te demande, c'est d'aller au bout de tes capacités. On ne t'a pas demandé plus qu'être toi-même. Maintenant, dans chaque situation, dans chaque domaine, dans chaque période, il y a un plus, il y a un potentiel. Il faut que tu sentes à l'intérieur de toi que tu déchires une carapace et que tu arrives à devenir ce que tu es censé être. Quand tu fais ça, tu es comme Abraham, Israël et Yaakov. Maintenant, Avraham, il avait un niveau qu'on pouvait lui demander de sacrifier son fils. Il a été d'accord. C'était son niveau. C'est pas ton niveau. T'en fais pas. Toi, peut-être, on va te demander, sacrifie 1000 francs. Tu vas dire, oh, sacrifie. Sur l'autel de la Tzedaka. Peux-tu les sacrifier? Et tu vas dire, franchement, je peux pas. Alors, Hachem, il va te dire, mais tu les as investis dans l'air. Tu peux pas les investir dans Hachem. Les investis dans Nike, tu peux pas les investir dans H&M. Combien coûtent tes baskets? 999. Mais c'était une affaire. Hein. Tu peux pas donner 1000 francs à la Zaka. Il y a des pièces jaunes. Il y a pas des petits, encore des plus. Il y en a, ils voudraient les tailles et les pièces de 1 centime d'euro en deux. Comme ça, elles servent deux fois. Ah, pour les Nike, ils cherchent pas les petites pièces. On dirait cash. Pour piétiner quelque chose, tu payes. Et pour t'élever, tu ne payes pas. C'est marqué ici. Que toi, tu dois faire les choses, des actes entiers. Des actes complets. Parce que celui qui est complet, il produit des actes complets. C'est pour ça que j'ai commencé par ceux d'avant. Parce que quand on n'a pas réglé les problèmes d'avant, on ne peut pas atteindre l'acte entier. Parce que l'acte, c'est quoi? C'est la projection de la personne. Maintenant, si vous mettez 5 doigts devant un projecteur, dans l'ombre, projeté au mur, il y a 5 doigts. Maintenant, s'il y a 4 doigts sur l'ombre, je m'excuse de vous le dire, mais s'il y a 4 doigts dans la main, exactement pareil. Ton acte, c'est la projection de toi-même. Tu ne peux construire des actes entiers que quand tu es entier. Donc, quand tu n'es pas entier, tu ne peux pas construire des actes entiers. Où c'est marqué ça? C'est marqué « Vayatsitsu kol po'ale aven ». Si on traduit littéralement Vayatsitsu, ça veut dire, ils resteront à l'état de bourgeon tous les actes du fauteur. On a dit que quelqu'un qui faute, c'est un rachat, c'est parce qu'il n'a pas détruit les manques qu'il a en lui. Parce que Dieu, il crée l'homme manquant, et ensuite, l'homme, il détruit son manque, et il est complet. Maintenant, quelqu'un qui ne détruit pas les manques, il est manquant. Celui qui est manquant, ce qu'il produit, c'est manquant. Donc un rachat, il n'arrive jamais à finaliser ses projets. Il ne fait jamais les choses entièrement. Son regard sur la vie, il est toujours superficiel. Quand il accepte quelque chose, il dit toujours « oui, mais ». Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas entier. Celui qui n'est pas entier ne peut pas projeter de l'entier. C'est pour ça que vous voyez toujours, quand un chacham, il écrit un hidou sur la Torah, un livre, à la fin c'est marqué « Tam venishlam baruch Hashem sheishlamti ». C'est marqué « Tam complet venishlam est fini et baruch Hashem que j'ai terminé ». C'est-à-dire que quand le tzaddik, il voit qu'il a terminé son livre, il sait qu'il est complet. Parce que s'il n'était pas complet, il n'aurait pas pu le terminer. Parce qu'il ne peut pas projeter du complet s'il est incomplet. Vous comprenez ça? Donc celui qui n'a pas construit sa matzah intérieure, comment voulez-vous qu'il fabrique une matzah extérieure? Et lui, il croit toujours, il y a quelque chose qui va pas, on ne m'a pas laissé, on ne m'a pas laissé faire. Il n'y a rien qui t'empêche. Parce que l'extérieur, c'est la projection de l'intérieur. Donc toi, quand c'est marqué « Matai yagiu amasai avotai », quand est-ce qu'ils vont, mes actes, ils vont atteindre les actes de mes pères? Ça veut dire quoi? On t'a pas demandé de venir Avraham, Yitzhak et Yaakov. Toi, dans ta génération, toi, tu arrives à te retenir de regarder une image dégueulasse. Ça, c'est ton sacrifice d'Yitzhak. Tu as envie de manger ta ref et tu manges pas ta ref. Ça, c'est ton sacrifice d'Yitzhak. Tu arrives à t'habiller snihout alors qu'il fait chaud. Je dis, oh, vous savez, j'ai pris sur moi la snihout en hiver. Mais en été, c'est très dur. Mais où est ta valeur? Où est ton acte? Où est ton acte? C'est comme si quelqu'un dit, moi je suis fidèle à mon mari, mais ça dépend si le type il est mignon. Alors son mari il prie pour qu'elle rencontre pas des types mignons. Ça veut rien dire. Parce que c'était pas complet au départ. Comme rien qu'hier soir, un type il m'a dit, vous savez, avant j'étais religieux et tout ça, j'étais avec quelqu'un et tout ça, mais une fille juive et tout, mais après elle m'a quitté, et ben j'ai tout lâché, maintenant je fais pas Shabbat et tout, je suis avec une non-juive. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me dire qu'à l'époque tu avais fait tchouva et maintenant tu as lâché la tchouva? Je dis, mais qui t'a dit que tu avais fait tchouva? Rabotai, la voiture la plus pourrie du monde, vous l'amenez chez un carrossier, il vous la rend top. Comment vous faites? Vous regardez le châssis. S'il est rouillé, elle n'est pas neuve. Il y a des gens, la peinture, elle n'est même pas sèche encore. Ils croient que le problème, il est réglé. Mais c'est que la peinture. Il faut construire à l'intérieur. Ce que nous, on appelle les clichés. Combien de fois j'ai dit à des gens, c'est bien, vous êtes réveillés, vous avez compris l'intérêt de la Torah et tout ça. Attention, on va vous présenter des gens clichés. Parce que comme vous êtes encore superficiel, on va vous présenter des gens superficiels. Après, vous dites, oh, je me suis fait avoir. Moi, je l'ai vu comme ça, je croyais que c'était quelqu'un de sérieux. C'est un cliché, comme toi. Regardez comment on dit en français. C'est un instantané. J'adore ce mot. C'est un instantané. Vous avez vu Polaroid? Tu prends la photo. C'est pas une Nikon. C'est un Polaroid. Faut pas trop demander. Il y a des gens, c'est des instantanés. Ils viennent de sortir. Ils sortent à peine du Polaroid de la Teshuva, comme ça. Alors on leur présente quelqu'un, ou eux-mêmes ils rencontrent quelqu'un, ils, vous savez, au cours du mardi j'ai rencontré quelqu'un, mais vraiment il est sérieux, hein, vraiment, je l'ai vu, il a une veste sombre et tout, c'est peut-être un religieux ou là. Je lui dis, mais est-ce que la deuxième fois que vous l'avez rencontré, vous a tenu la main? Oui. Alors il n'est pas religieux. Non mais il m'a dit que c'est très dur, mais vraiment c'est dur, mais il fait des efforts. Alors vous aussi faites un effort, basez-le. C'est un instantané. Vous comprenez? La peinture n'est même pas sèche. Et là, tu veux mieux? Tu dis, mais je veux quelque chose de bien. Alors, un peu, attends que toi aussi, tu deviens un petit peu construite. Tu vas avoir quelque chose de construit. Si tu es pressé, tu auras quelque chose de pressé. Tu veux du gravé, c'est plus long. Exactement pareil. À partir du moment où quelqu'un comprend qu'on vient, en fin de compte, de définir les cinq niveaux de Shlemout qui existent, les cinq niveaux d'entité qui existent, qui sont les cinq qualités de Matzot qu'on doit pétrir et qu'on doit construire, oui, et qui vont nous permettre en fin de compte de nous déplacer à l'intérieur du monde. Maintenant le problème, c'est d'arriver à définir comment est-ce qu'on y arrive. C'est bien beau tout ça, maintenant on a posé le résultat. Mais comment est-ce qu'on atteint ça? Alors c'est marqué dans le Maharal de Prague, tout est marqué dans les Matzot, regardez. C'est marqué dans le Passouk, Ushmartem et ta mitzvot. Vous garderez, Ushmartem et ta Matzot, vous garderez les Matzot. C'est marqué dans le Maharal. Qui ma'asav bemeirut ou bekoar gadol ad she'en kan ikuv. Ça veut dire quoi, vous garderez les Matzot? Regardez. Qui ma'asav bemeirut, car ses actes sont rapides. Ou bekoar gadol, avec une grande force. Ad she'en kan ikuv, jusqu'au point qu'il n'y a plus d'empêchement, il n'y a plus d'obstacle. Qu'est-ce que ça veut dire, koar gadol, une grande force? Qu'est-ce que ça veut dire, meirut, la vitesse? Et qu'est-ce que ça veut dire? Que la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a pas d'empêchement. Ici, c'est marqué une chose incroyable. Vous voyez, entre l'impulsion de l'idée dans la tête, qui prend à peu près un milliardième de seconde, et le passage à la réalisation, il faut qu'il y ait une intensité et une puissance et une vitesse tellement grande que l'écueil qui pourrait être un obstacle n'a pas le temps d'apparaître. Je vous ai déjà dit plusieurs fois. Pourquoi les tzadikim y courent toujours? Vous n'avez pas demandé? Je ne comprends pas ce type-là. Il a fait 20 fois le Talmud. Il a fait 1 milliard de mitzvot. Pourquoi il court? Il va pour faire une tzedaka, il court. Il va pour visiter un malade, il court. Il va pour étudier, il court. Au contraire, il a du crédit, il devrait marcher doucement. Non. Tzadikim, zrizim. Les tzadikim, ils sont rapides, ils courent. Les rishaïms ne sont pas pressés. Tranquille. Je mettrai, si je ne mets pas les téfilines aujourd'hui, je les mettrai dans un prochain Gilgoul. La synagogue, elle est ouverte tous les jours. Samedi prochain aussi, c'est un samedi. On ne va pas fermer la synagogue, non? Alors ça va. Chiacha. Doucement, doucement. Qui va ça, non? Qui va piano, comment vous dites? Qui va piano, va ça, non? Non. Il dit le Maharal de Prague. Ce qu'on a appris de la Matzah, c'est que les Bnei Israël sont sortis Bechipazon. C'est quoi Bechipazon? C'est avec empressement. C'est quoi l'empressement? Allez, écoutez-moi bien. La différence entre l'empressement et la précipitation, c'est que Kadosh Baruch Hu, il veut que tu sois extrêmement précis et en même temps extrêmement rapide. Maintenant, les gens qui sont pas construits, quand ils sont rapides, ils font des erreurs. Mais les gens qui sont construits, ils peuvent faire la même chose rapidement. Et c'est plus une question de temps. Combien de fois je vous ai raconté l'histoire de ma grand-mère? Vous oubliez? Ma grand-mère. Ça déquête comme ça. Tu rentres l'après-midi de l'école, t'es esquinté, tu ouvres le frigo, il n'y a rien. Et tu la vois, elle est en train de trier les, comment ça s'appelle là? Les grains de sésame ou la, aujourd'hui on les achète comme ça. À l'époque, il les achetait, il les triait. Il enlève les petits cailles, comme ça. Hein. Elle a un plateau comme ça. Elle fait. Toi, tu rentres, tu dis, oh, mamie, il n'y a rien à manger, j'ai faim. Tu sais comment ils sont les adolescents affamés. Tu ouvres le frigo, ah, il n'y a rien. Tu dis, mamie, je prends une douche, tu me fais un petit sandwich. Écoutez bien, tu prends ta douche, 10 minutes, tu sors, il y a une table de Shabbat. Tu dis, mais comment? Pour couper une tomate, elle met une demi-heure. Elle te fait cuire un petit truc. Et cuisiner! Un faux plat, un steak. Il y a des gens, ils font le steak, ils oublient de mettre le steak. Tu dis, alors, il vient le steak. Attends, j'ai oublié quelque chose. Elle t'a fait un petit tagine. Je sais pas comment elle a fait, en 10 minutes. Petit tagine, un plat, une entrée, un truc, un dessert. Tu dis, mamie, comment t'as fait? Ah, ouya, tu... La fille baisse. Mec, mange. Est-ce que tu... La vitesse... C'est une question d'intensité. Comprenez? Comme le contraire. La lenteur. C'est pas parce que la personne, elle est lente. C'est parce qu'elle sait pas ce qu'elle veut. Ah, peut-être je vais faire ça. Ou je vais faire, qu'est-ce que je vais lui faire à manger? Mais il est mort, n'aie pas peur. C'est marqué ici. Bémé Irout, que la personne elle fait vite. Béko Argadol. C'est la puissance. Quand vous alliez la puissance à la vitesse, il y a rien qui peut arrêter. Ad chez en kan ikuv, jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'obstacle. Je vous ai déjà expliqué, tu prends une éponge, tu la jettes contre une vitre. Elle peut pas traverser la vitre, c'est impossible. Tu dis, mais je vais la lancer fort. Elle va pas traverser. Mais si tu tires une balle, la balle, elle traverse la vitre. Pourquoi? Parce que la densité moléculaire de l'éponge, elle est moins grande que la densité moléculaire de la vitre. Mais la densité moléculaire de la balle, elle est plus grande que la densité moléculaire de la vitre. Donc les gens qui sont concentrés, les gens qui savent ce qu'ils veulent, les gens qui sont entiers et qui sont sincères, on ne peut pas les arrêter. On ne peut pas. Parce qu'ils sont vite et ils sont bécouards, gadol. Mais les gens qui savent pas ce qu'ils veulent, c'est des vaporisateurs. On dit en français, c'est des êtres dispersés. De quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Je crois que c'est facile. Mais qu'est-ce qui est difficile? Je sais pas. Mais pose un problème. Non, mais je sais pas. Dis-moi, toi. Quoi, moi? Le mec, il vient chez toi. Il dit, je veux te parler. Il dit, alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi? Je sais pas, moi, je sais pas. Tu vas chez le garagiste. Alors, hein? À votre avis? Tu vas chez le chirurgien. Tu dis, alors, où j'ai mal? Où t'as mal? Je sais où t'as mal. Dis-moi où t'as mal, je te soigne. Je suis mal, tu dis, oh, c'est trop facile. L'éponge, elle peut pas traverser la vitre. Elle s'écrase mollo. Faites l'expérience. Collez la tête contre la vitre comme ça. Vous avez vu la tête? Prenez une photo et quand vous n'avez pas la pêche, vous regardez cette photo. Regarde à quoi tu ressembles, regarde. Mais c'est moche. Tu dis, oh, c'est quoi cette tronche? C'est toi. Tu t'écrases mollement contre la vitre. Vous savez comment elle fait l'éponge? Elle fait ta. Et après elle glisse doucement. C'est pareil, genre, ouais, tu dis à l'autre, tu vas, attends! Une balle de haute précision, elle traverse la vitre. Un trou impeccable. Oh! Il n'y a rien. Où est la balle? T'as croisé un TGV. Il y a des gens comme ça. On pourrait. Oui. T'as vu un mec là? Oui. Où il est? C'est renversant. Ouais. Et c'est quoi ça? Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un il est concentré et il est entier à l'intérieur de ce qu'il fait, il n'y a rien qui peut l'arrêter. C'est pour ça que c'est marqué Bederer Sherod Seleler Monichinoto. Quand un homme, dans le chemin dans lequel il veut aller, on le fait aller. Pourquoi on a dit veut aller? Pourquoi vouloir? Parce qu'il dit le Rav Dessler, Ratson à Adam ou Mauto, l'essence de l'homme, c'est de la volonté. Maintenant, qu'est-ce qui te freine chez toi? C'est tout ce qui est autour de la volonté. Tous les substituts, toutes les images, toutes les frioritures, toutes les bêtises, toutes les lourdeurs, toutes les complexes, toutes les angoisses. Tout ce qui est en dehors de la volonté, ça te freine. Mais si quelqu'un, il n'est que volonté, et il projette un projectile qui n'est que volonté, dans un projet qui n'est que volonté, mais il n'y a rien qui va l'arrêter. Donc, Ratson à Adam ou Mauto, puisque l'essence de la personne, c'est la volonté. Donc, Bederer Sherod Seleler, quand quelqu'un y produit quelque chose de pur et d'entier et de sincère, qu'est-ce qui va l'arrêter? Comment tu vas l'arrêter? S'il le fait pour le kavod, tu peux l'arrêter avec du kavod. S'il le fait pour de l'argent, tu peux l'arrêter avec de l'argent. S'il le fait pour qu'on le regarde, tu peux l'arrêter en le regardant. Mais s'il le fait ni pour le kavod, ni pour l'argent, ni pour qu'on le regarde, c'est un météorite. Qui c'est qui va l'arrêter? Il est projeté par sa propre énergie. Et cette énergie, elle est infinie. Il traverse. Exactement pareil. Si c'est comme ça, il a dit le Maharal, Ad She'en Kan Ikuv, jusqu'au point qu'il n'y a pas d'obstacle. Je vous l'ai dit la semaine dernière, mais je vous le redis parce que c'est trop grave. Ça veut dire que les obstacles, ils apparaissent à cause du Shi'ui Zman, à cause du fait qu'on laisse tarder les choses. Le Hametz, il crée des problèmes parce que tu tardes. Ce garçon, il est bien, t'as fait le tour du problème, marie-toi. Cette fille, elle est sérieuse, c'est bien, marie-toi. Ce travail, tu le sens, vas-y. Ce deal-là, tu le sens, vas-y. Tu dis, on sait pas, peut-être. Ah, maintenant, tu vas avoir des problèmes. Maintenant, le propriétaire, il change d'avis. Maintenant, l'investisseur, il dit, amenez-moi des preuves concrètes. Maintenant, le banquier, il te demande, t'as pas vu, c'est parce que t'as traîné? On Encore une fois, je t'ai pas dit qu'il faut se précipiter. Je t'ai pas dit qu'il faut être un imbécile. Je t'ai dit qu'à partir du moment où tu as créé des schémas d'efficacité et que tu as fait le tour du problème, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 9 critères. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, démarre. Toi, tu dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends. Attends quoi? Je te parle pas des gens qui font 1, 3, j'ai oublié 2. C'est ça qui crée les problèmes. Donc si c'est comme ça, puisque cette énergie-là est les fruits de la concentration, comme la différence entre une ampoule de 100 watts et un laser. Les deux, c'est de la lumière, mais là, c'est concentré. C'est concentré. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Elle te dit, concentre-toi. Recentre-toi. Redéfinis-toi. T'as un problème, cherche chez toi. Ça marche pas avec les gens, cherche chez toi. Ça bloque dans la vie, cherche chez toi. Tu te recentres. Tu reprends tes forces, tu les remets au milieu et tu renvoies un rayon. Ça va passer. À la fin, ça va passer. Exactement pareil. Donc dans la vie, on appelle ça « je me prends en main ». Cherche pas de justificatif. Je me prends en main. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois construire? Qu'est-ce que je dois développer pour arriver, moi, autant pour moi? C'est quoi la matza? C'est la matza. Avec les autres, c'est pareil. Moi, je vais être investi, je vais être sincère, je vais être entier. Je vais tenir un langage d'adulte et je m'adresse à des adultes. Maintenant, ou le type en face, il est adulte et on travaille à deux. Ou il n'est pas adulte et il se met dans le groupe des bébés. Mais je n'ai pas à souffrir du manque de maturité de l'autre. Parce que si moi, je me mets dans la complainte de la douleur, du fait que l'autre n'a pas été à la hauteur de la maturité que j'attendais de lui, ça veut dire que moi aussi, j'ai envie d'être une souffrance, j'ai envie d'être un gros bébé à qui on va dire, eh ben t'as pas eu la chance de comprendre, de trouver quelqu'un qui t'a compris. Donc ça fait deux gamins. Non. Toi, tu fais ce que t'as à faire. Et tu proposes à l'autre une alternative. Ou tu montes avec moi, ou tu montes pas. Maintenant, sa réponse, elle sera toujours une réponse. Toujours. Rappelez-vous de ça. C'est que quand la personne dit non, c'est une réponse. Et quand la personne, elle tarde, c'est une réponse. Et quand la personne, elle répond pas, c'est une réponse. Ah, pourquoi tu t'autodétruis? Parce que tu te nourris d'espoir. Et dans désespoir, il y a espoir. Et tu fais l'inverse. Tu dis, moi, je suis un adulte. Je te propose quelque chose de concret. Tu veux de l'aide? Je suis là. Tu veux de l'écoute? Je suis là. Tu veux de l'investissement? Je suis là. Mais on est deux à ramer. Je vais ramer tout seul. Je vais ramer tout seul, moi. Moi, j'avance. Je m'arrête pas. J'avance. Tu veux avancer? Viens. Ça, les gens, des fois, ils prennent mal, ils comprennent pas. J'ai dit à des gens, j'ai dit, moi, je vous écoute. Moi, je vous parle. Je vous donne mon sang. Je vais laisser ma famille pour m'occuper de vous. Mais si une seconde, j'ai l'impression que vous vous moquez, que vous appréciez pas les efforts et que vous en tenez pas compte, mais je peux vous voir mort dans la rue et je continue à marcher. Je dis, mais pourquoi? Parce que la seule chance de rendre quelqu'un adulte, c'est de lui proposer d'être adulte. Mais si tu l'acceptes en tant qu'enfant, c'est toi qui le rends enfant. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Et c'est marqué. C'est marqué, Mishen Bodaat Asur le Rachem Alav. Celui qui n'a pas d'esprit, celui qui n'a pas d'intelligence. Mais c'est quoi Da'at? C'est pas seulement l'intelligence. C'est un mélange entre la conscience et la volonté. On appelle ça en français la maturité. Maintenant, celui qui a les moyens d'être mature et qui ne prend pas sur lui d'être mature. Asur le Rachem Alav, c'est interdit d'avoir pitié de lui. Tu dis, mais pourquoi? Mais la Torah, elle prend la tolérance, la miséricorde, la pitié. Mais si la pitié, elle est destructrice? Parce que pourquoi il se prend pas en main? Parce que tu le maternes. Tu dis, moi, ça fait 20 ans qu'il m'écrase. Mais c'est normal, t'as fait le cabot. Jamais t'as tapé sur la table. Jamais t'as dit, c'est plus possible. Jamais t'as dit, c'est trop. T'as dit, non, c'est pas grand, il m'en grand, il m'en grand. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a acheté une laisse. Quand je dis il, je peux te dire elle aussi. Vous comprenez? Exactement pareil. Ça veut dire qu'au contraire, Michel Bodaat, si quelqu'un il est en âge, bien sûr, on parle pas d'un enfant de 8 ans. Si la personne est en âge d'être mature, la seule chance que tu peux lui donner de devenir mature, c'est de lui adresser un langage de nature, de mature, de lui proposer des propositions d'adulte. Tu vas me dire, mais je sais qu'il les fera pas. Tu peux pas faire autrement. Parce que si tu te mets au niveau et tu dis, je vais lui faire des propositions d'enfant, déjà toi t'as perdu. Et qui a dit que toi, tu as le droit de sacrifier ton devenir d'adulte au profit d'une complémentarité de gamin? Qui a dit que tu vas pas arriver devant HM à 120 ans et on va dire comment ça se fait que tu n'es pas devenu ce que tu devais devenir? Et tu vas répondre, mais je l'ai fait pour le shalom. Le copilote, il est bourré et toi, tu lui donnes le volant. T'es malade. T'es fou, quoi. Tu prends le volant. Encore une fois, il y a un enfant et un adulte. Qu'est-ce qu'il fait l'adulte? L'adulte, il propose à l'enfant, devient l'adulte. Maintenant, l'autre, une chance sur deux. Oui ou non? Mais non, c'est une réponse. Hey, c'est une réponse. Vous comprenez pas? C'est une réponse. Donc, faut réagir. Parce que l'autre, il a répondu. Il dit, mais je crois qu'il n'a pas encore répondu, je vais lui donner le temps. Non, prononce d'une autre manière. Développe les choses. Maintenant, j'ai pas dit que maintenant, il va être comme ça le lendemain. Mais on sent un mouvement. Mais s'il est pris dans le ciment... Mais, hey, tu vas pas survivre. Hein. Les contemplations, c'est bon pour la Martine. C'est la lamentation. Je confonds avec Victor Hugo. C'est Victor Hugo. Merci. J'ai eu le bac juste à temps. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut rien faire d'autre dans la vie que d'inviter l'autre à devenir adulte, dans l'espoir que les deux vont devenir adultes. C'est bien. Mais on peut pas faire autrement. Parce que sinon, tu maternes. Et l'autre, il devient un débile. Exactement pareil. À partir du moment où moi, j'ai compris que c'est comme ça avec l'autre, que c'est comme ça avec moi-même, que c'est comme ça avec la vie, que c'est comme ça avec l'acte, alors ça va être évidemment la même chose avec HM. Pourquoi? Et c'est encore une fois, on revient à ce pasouk, parce que tout est marqué dedans. « Ushmartem et ta matzot, vous garderez les matzot. » La Mechilta, elle dit « Amar Rabbi Ishaya » Al tikre ushmartem et tamatzot, et là ushmartem et tamitzvot. Il faut pas lire, il a dit Rabbi Shaya, il faut pas lire, tu garderas les matzot, mais tu garderas les mitzvot, qui est derrière chez en machmitzin et tamitzvot, de la même manière qu'on ne doit pas laisser les matzot devenir chametz, car en machmitzin et tamitzvah, de la même manière on ne doit pas laisser pourrir la mitzvah, et là imba'a mitzvah le yadecha. Ah, c'est Ota Miyad. Si la mitzvah, elle vient devant toi, fais-la tout de suite. Toujours les gens, ils se demandent, c'est quand? C'est quand? C'est hier. C'est marqué. Im'en anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui va être pour moi? C'est-à-dire, si tu ne deviens pas toi-même, personne ne peut le devenir à ta place. Maintenant, t'aurais bien voulu que des gens, ils se mettent à ta place, ou des gens, ils comprennent la vie à ta place, ou les gens, ils prennent tes responsabilités, ça sert à rien. Puisque si tu n'es pas toi-même, personne ne pourrait être toi-même. Et si tu vas dire Veim, Veim Loarchav, et si c'est pas maintenant, c'est quand? Et ma taille? C'est maintenant le moment. Tout de suite. T'as compris? C'est le moment. Tu dis, mais je vais bien comprendre. D'accord. Rate les occasions. Ah, bataille, c'est bizarre. C'est marqué dans la Torah, Ushmartem et Tamatzot. D'accord? Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que la Torah, elle a dit, bon, tu sais, il y a beaucoup d'alahod, il y a beaucoup de lois pour faire la matzah. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lois. Je sais pas si vous avez assisté une fois à la fabrication de la matzah. Il y a beaucoup. Faut faire attention au blé. Faut faire attention aux grains de blé qui pleuvent pas, qui se mouillent pas. Après, faut faire attention à la farine, comment on va la pétrir, comment on va la moudre. Après, il faut faire attention aux ustensiles qu'on utilise qui soient cachères. Après, il faut pas qu'il y ait trop d'humidité dans la pièce. Après, il faut partager la pâte. Après, il faut la pétrir tout le temps. Après, il faut vite donner la forme de la matzah. Après, il faut faire les trous à l'intérieur. Mais il faut que les petites grilles, les petites rondelles qui vont servir à faire les trous, il y ait pas des pâtes, des matzot antérieures. Il faut nettoyer tous les ustensiles toutes les 18 minutes. Après, il faut vite la mettre dans le four. Il y a beaucoup de lois quand vous pourquoi les gens disent pourquoi ça coûte cher les matzot? Tu peux prendre une baguette. Il n'y a rien de compliqué. Tu formes la pâte, tu la mets dedans, elle est cuite. La matzah, c'est compliqué. Ushmartem et ta matzot. Vous garderez les matzot. Ça veut dire quoi? C'est compliqué de faire des matzot shmurot. Faut les garder, les matzot. D'accord? De la même manière, on a dit c'est quoi la matzah? La matzah, c'est la plénitude de quelqu'un. Ouais? C'est la plénitude. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Que à n'importe quel moment de ta vie, malgré que t'es construit, tu peux redevenir Hametz. T'es encore un grain de blé. Il pleut, t'es Hametz. T'es devenu déjà de la farine, c'est pas mal. Il fait humide, t'es Hametz. T'es devenu de la pâte. On t'a laissé monter, tes hametz. On t'a fait cuire. On t'a fait des petits trous dedans, mais on t'a remis un petit bout de la matza d'avant. Tes hametz. C'est exactement pareil. La plénitude, c'est une chose extrêmement dure à atteindre. Et toute sa vie, on va travailler pour l'atteindre. Mais où il est le problème? C'est qu'on n'atteint pas une plénitude. La vie, c'est des strates. À chaque strate, il y a une plénitude à atteindre. Il faut que tu sois un enfant épanoui. Il faut que tu sois un jeune homme développé. Il faut que tu sois un homme complet. Il faut que tu sois un époux parfait. Il faut que tu sois un père développé. Alors, à chaque étape, il y a une nouvelle matzah. Et à chaque étape, tu peux devenir chametz. C'est pour ça que c'est marqué « Ushmartem et amatzot ». Il faut garder. Parce que si tu n'es pas sur tes gardes, mais on le dit en français, si tu n'es pas sur tes gardes, tu vas t'égarer. Et ça va comme ça. Quand les gens te disent, mais comment un type comme ça, il a pu tomber tellement bas? Bouteille, c'est marqué jusqu'au jour de ta mort. Il faut pas être sûr de toi. Et les gens disent,
Baruch Hashem.
Rambo avec la barbe.
Non.
Vous avez bien compris pourquoi ils lui ont donné une voix comme ça? C'est pas un crapaud. Je sais pas, ça rassure les chiens quand ils entendent. Oh. Bouteille, c'est pareil. Si quelqu'un y comprend que la plénitude, c'est des strates, et de la même manière que tu passes d'une étape à l'autre pour fabriquer différentes matzot pour arriver à la matza finale, de la même manière, tu dois être conscient et être sur tes gardes durant chaque étape de la vie. Alors ils demandent les commentateurs, mais quand même c'est marqué dans la Torah, tu garderas les matzot, c'est pas marqué tu garderas les mitzvot. Donc vous savez que le mot mitzvot, il s'écrit comment? Mem, tzadik, vav, tav. Mais on met deux vav en général pour faire comprendre qu'on parle de mitzvah. Et le mot matzot, il s'écrit mev, tzadik, vav, tav. C'est pareil. Alors, il y a deux problèmes. Premier problème, pourquoi le mot mitzvah et le mot matzah, c'est le même mot? Deuxième problème, comment les haramim, ils ont pu se permettre de changer le pshat, le sens simple? C'est marqué, tu garderas les matzot, c'est pas marqué, tu garderas les mitzvot. Et de là, ils ont appris que si une mitzvah, elle vient devant toi, ne la laisse pas devenir hametz. Ben c'est très bien. Parce que qu'est-ce que c'est une mitzvah? En fait, c'est quoi une mitzvah? Moi, je vous ai donné beaucoup de genres de facettes de la vie pour essayer de vous faire comprendre qu'une personne, elle doit se réaliser. Maintenant, comme vous le savez tous, le Shulchan Aruch touche tous les domaines de la vie. Donc, dans toutes les dimensions de la vie, tu peux faire les choses selon un caractère de mitzvah ou non. Tu peux travailler, mais tu peux travailler selon les règles de la Torah. Tu peux manger ou manger selon les règles de la Torah. Tu peux t'habiller ou t'habiller selon la Torah. Tu peux parler ou parler selon la Torah. Tu peux écouter ou écouter selon la Torah. Tu peux aller aux toilettes, oui ou non, selon la Torah. Il y a des règles aussi, comment on va aux toilettes. Oui. Non, tu peux pas obligé de te mettre tout nu. Il y a une loi dans le Shulchan Aruch. Tu te découvres le moins possible. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Non. Ta conscience de Dieu, elle est même dans les endroits caché. Maintenant, si toi, dès qu'on te regarde plus, tu deviens... Ça va pas. Tu dois pas te lâcher. C'est normal, Dieu est là. Vous savez qu'on n'a pas le droit de parler dans les toilettes. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il a créé le monde avec la parole. Ah, Seigneur, je vois pas le problème. Parce que toi, ta parole n'a pas de valeur. Mais celui qui utilise sa bouche pour des choses propres, ça le dérange d'utiliser sa bouche dans les toilettes. Donne une valeur! Comme quelqu'un à moi, il disait, j'ai donné ma parole. T'as donné quoi? Non, pour lui, là-bas. Quelqu'un, il réfléchit avant de parler. Donc quand il dit une chose, il l'a dit. Mais quelqu'un, il parle comme il rote. Excédent d'air. D'accord? Donc celui que sa parole, c'est un excédent d'air. Donc sa parole n'a pas d'utilité. Alors que ça rentre par là, ça sort par là, bof. Y a rien. Exactement pareil. Ça veut dire que la Torah, c'est quoi? C'est que on te donne que dans tous les domaines de l'acte, tu peux avoir un acte de haute qualité ou un acte de basse qualité. Maintenant, je vais vous dire un truc incroyable. Et ça c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc qui me trouble. De toute façon, les actes, tu vas les faire. Alors pourquoi tu les fais pas bien? De toute façon, manger, tu vas manger. Travailler, tu vas travailler. Des enfants, tu vas en faire. Tu vas en élever. Alors pourquoi tu fais pas bien? Parce que tu le fais. Vous comprenez ce que je veux dire, non? En tout cas, tu veux faire des enfants, il y a des règles. Il y a des manières de faire, il y a des pensées à avoir, il y a une certaine préparation, il y a un certain degré d'amour et de complémentarité avec la femme, c'est très 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 important. Ça a des retombées abominables. Tu vas décider si ton fils il sera homosexuel ou s'il sera débile, orienté ou s'il sera construit, s'il aura toute la sensibilité qui est nécessaire, s'il aimera la Torah, s'il n'aimera pas, tout ça au moment de la conception, au moment de la sexualité. Donc on t'a donné des règles, tu peux faire bien. Toi tu dis non, j'ai envie de prendre mon kiff. Dommage. Tu pouvais être un ange, tu t'es rabaissé au niveau du chien. Tu t'es vidé. Qu'est-ce que t'as fait? Vidange. C'est ça la vie?
Eh ben, nous avons conçu un enfant.
Nous, on dit vider une poubelle, lui, il dit concevoir un enfant. Et dans tout, c'est comme ça. Tu vas manger, mais fais attention à ce que tu manges. Vous vous rendez compte qu'il a fallu attendre le 20e siècle pour que le goy, il dit, mais quand même, faut quand même faire attention à ce qu'on mange, quand même. Faut quand même faire attention. La nutrition, l'hygiène. Enfin, on ne peut pas manger du gibier. Le gibier, vous savez, c'est la viande faisandée. La viande faisandée, c'est une viande qui a été abattue et qui est consommée seulement 28 jours après. Ce que nous, on appelle la viande pourrie. Mais c'est faisandé. Comprenez ou non? Les conditions d'hygiène, c'est obligatoire. Il faut cachériser. Quand il y a du lait et de la viande mélangée, c'est cancérigène. Ils ont découvert ça, les scientifiques. Quand c'est cuit ensemble, le lait et la viande, c'est cancérigène. On va pas les attendre pendant 2000 ans, ils sont trop longs. Les crustacés, c'est les poubelles de la mer. Ils vivent au fond, ils mangent les cadavres. Les huîtres, c'est les filtres. Toutes les crasses de l'eau, elles passent par les huîtres. Elles sont ramassées par les huîtres. Et elles se nourrissent de ça, donc ça nettoie la mer. Dis-moi, prends une petite cuillère, démonte le siphon de ton robinet et mets-toi à table. T'es siphonné ou quoi? Ah, je suis huîtré. Huîtré. Vous allez me dire, c'est écœurant. Après, ils ont trouvé l'hépatite C ou la B ou je sais pas quoi. Mais mon frère, ça fait 2500 ans qu'on vous le répète. 3500 ans, on n'est plus à 1000 ans près. Mais ça suffit. Ils attendent, non, je crois pas. Nous restons sceptiques. Alors prends des antiseptiques. Un bouteille, c'est pas shoot, c'est évident. Donc, qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, c'est un niveau d'optimisation de l'acte. C'est que quand la Torah, elle t'a dit, le même acte, tu vas le faire de toute façon, alors fais-le bien. Tu dois le faire avec ta tête, tu dois le faire avec ton corps, tu dois le faire avec ta conscience, et tu dois le faire avec ta neshama. Maintenant, les règles de la conscience, et les règles du geste, et les règles de la neshama sont pas les mêmes. Alors, apprends les règles de la neshama, et tu vas mettre ta neshama dans l'acte. Donc on appelle ça en français sanctifier. Tu peux sanctifier ton argent. Tu peux sanctifier ta maison. Tu peux sanctifier ton regard. Tu peux sanctifier ta langue. Tu peux sanctifier tes oreilles. Tu dis que ça sert pour une vache de troupeau, ça sert à rien. Mais pour un être qui a de l'ambition existentielle, ça sert à quelque chose. Puisque c'est encore une fois, c'est une échelle de choix. De toute façon, là que tu vas le faire, tu peux le faire bidon ou tu peux le faire extraordinaire. Alors fais-le extraordinaire. Maintenant, pour que ta maturité que tu as construite à l'intérieur de toi, elle se propulse à l'intérieur de ton psychique, elle se maintienne à l'intérieur de ton vécu et elle s'imprime à l'intérieur de ta réalité, il faut garder cette maturité. Vous avez compris? Il faut la garder. C'est comme si tu prends des tuyaux. Tu prends un tuyau, un tuyau, un tuyau, un tuyau, et puis tu mets du scotch entre les tuyaux. Après, tu dis, c'est marrant. Il n'y a pas de pression à la sortie. C'est normal. Ton sparadrap, il est bidon. Alors, à chaque fois que tu as fait un raccord, il y a une perte. Il y a une perte d'eau, il y a une perte de pression. Perte de pression 1, perte de pression 2, perte de pression 3. Comment tu vas faire? Tu vas faire des joints complètement étanches et bien solides. Et le tuyau, il va être bien fermé. Donc, l'intensité de départ, elle va se retrouver à l'extérieur. Comment s'appelle ça? Ushmartem et amatzot. C'est ça la shmira. Imagine-toi que la maturité, c'est quelque chose de volatile. Imagine-toi que la tzitkout, d'être juste, d'être vrai, c'est quelque chose de fragile. Imagine-toi que d'être sincère, c'est quelque chose de léger. Alors comment tu vas faire pour conserver la puissance de ta maturité et la puissance de ta pureté et la puissance de ta vérité au départ comme à la fin? Il faut que ton circuit, mon frère, il soit étanche. Ton problème à toi, c'est quoi? Les déperditions. Au niveau psychique, t'as des déperditions. Au niveau physique, t'as des déperditions. Au niveau de ton vécu, t'as des déperditions. Alors à la fin, quand ça arrive à l'extérieur, il y a un petit robinet de... Tu dois éclater le karcher. C'est pour ça que la Torah, elle a dit « Ushmartem et ta matzot ». Toutes les matzot dont on a parlé jusqu'à maintenant, elles ont besoin d'une shmira. Et ça, c'est quoi ça? C'est mitzvah abal yadecha al tahmitzena. Ça veut dire que la recette du devenir, la recette de ce qu'on attend de toi, elle est simple, Rabotai. C'est exactement les mêmes règles que la fabrication des matzot. Ce qu'on attend de toi, c'est la plénitude. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois quelqu'un d'entier. C'est quelqu'un de construit, quelqu'un d'évolué. Maintenant, ça va pas se faire en 5 minutes. Parce que ça a commencé depuis qu'on a ramassé le grain là-bas. Ça fait 6 mois déjà. Exactement pareil. Dans ta vie, tu vas commencer par ramasser déjà des grains de blé. C'est des produits qui ont un grand potentiel, mais qui en eux-mêmes n'ont aucune valeur. Ils sont durs. Après, il va falloir pétrir. Il va falloir moudre. Il va falloir te casser un peu. Faut que t'apprennes à te la fermer. Faut que t'apprennes à casser les cheveux en quatre. Je vois des gens, ils ont 28 ans. Tu commences à leur demander la remise en cause. Ils te disent, oh, tu me prends la tête. Je te prends la tête. Mais c'est à 14 ans qu'il fallait te casser. C'est à 16 ans qu'il fallait dire, c'est pas grave si j'ai tort. C'est à 17 ans qu'il fallait dire, peut-être que l'autre, il a raison. C'est à 20 ans qu'il fallait dire, eh ben, il faut accepter la vérité, même quand elle vient d'un plus petit que toi. Parce qu'à 28 ans maintenant, que t'as un ego en tungstène, tu crois que tu vas évoluer maintenant? Mais c'est presque un miracle. Vous comprenez ou non? Donc d'abord, tu prends les grains de blé, c'est ton potentiel. Ensuite, tu vas moudre la farine, c'est pas grave. Tu dis, je vais être nul, tu vas pas être nul. Tu vas moudre la farine, vas-y. Tu as une idée, coupe-la en deux. Tu as une démonstration, coupe-la en deux. Tu as encore une preuve, coupe-la en deux, remets-la en cause. Allez, redémontre, allez, remets en cause, allez, redémontre. Et tu avais un problème avec lui, allez, reviens une fois, et reviens deux fois, reviens trois fois, reviens mille fois. Tu dis, oh quoi alors? Alors quoi? C'est pas grave, tu veux le shalom. C'est pas grave. Après, tu regardes cette farine, garde-la bien propre. Attention, l'humidité. C'est quoi l'humidité? C'est ce qui va fluidifier. Garde-la bien propre. Après, tu mets l'eau, juste ce qu'il faut comme eau, pas plus. La farine, maintenant, c'est quoi? C'est l'intellect, il est sec. Et l'eau, c'est quoi? C'est les sentiments. Il faut le bon dosage. Parce que si tu mets trop d'eau, c'est de la gadoue. Et si tu mets trop de farine, ça fait une pâte brisée. Il faut juste le dosage, l'équilibre entre le sentiment et l'intellect. Entre la force émotionnelle et la force intellectuelle. Maintenant, la pâte, elle commence à prendre. N'arrête pas de pétrir. Voilà, maintenant, tu as déjà 28 ans. N'arrête pas de pétrir. Ah, tu commences à avoir un enfant, deux enfants, trois enfants. Tu mets la pâte au four. Il n'y a pas comme les enfants pour faire cuire un père ou une mère. C'est incroyable. Parce que l'enfant, c'est une obligation de maturité. L'enfant, il te dit, alors papa, t'es là ou t'es pas là? Tu nous fais une crise de gaminerie ou t'assumes ton rôle? T'es obligé d'être cuit. Malheur à celui qui n'a pas pétri la pâte au moment de la cuisson. Parce que ça fait des grains de blé grillés. Vous comprenez ça? Le contraire. Tu as fait ton travail. Pourquoi je vous parle maintenant? Vous êtes célibataire. Combien de fois je vous saoule avec votre rôle de parent? Vous dites pas, oh, il nous prend la tête. Eh, c'est maintenant. C'est pas la feuille d'arbre à mitzvah ou que quand tu vas trouver ton fils avec une seringue que tu vas dire, bon, alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui mets une tannée? Qu'est-ce que je... T'as commencé bien avant. Ça c'est quoi? Ushmartem et tamatzot. À partir du moment où toi, tu as compris que ce parcours de l'énergie de ta neshama qui sort de toi, que tu vas maintenir ce qu'on appelle Ve'ushomer et neshama kedusha, qu'un homme il va garder sa, son âme sainte. C'est quoi cette âme-là, en fin de compte, on a compris? C'est une somme d'énergie extraordinaire que tu peux projeter au travers des différentes strates de ton évolution pour les amener dans une réalité, pour qu'elles sanctifient la réalité. Et ça s'appelle garder les matzot. Donc automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il attend de toi une chose extraordinaire qu'on appelle la maturité religieuse. Ça s'appelle la plénitude. Alors elle passe par des étapes, elle prend du temps, mais elle va t'amener une réalité. Maintenant, une des caractéristiques essentielles de la maturité religieuse, c'est quoi? C'est ce qui est marqué là-bas, que Yatsu et Chipazon, ils sont sortis avec empressement. C'était quoi empressement? Il dit la Mechilta, c'est Hipazon Ashrina, c'est l'empressement de la Shekhina. Ils disent les commentateurs, tu crois que Dieu il est pressé? Dieu il était paniqué, il a eu peur d'arriver en retard. Alors il a fait vite sortir les bénis Israël. Non. Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir les bénis Israël avec empressement. Parce qu'il a voulu leur montrer, il dit le Maharal de Prague, qu'un ben Israël, il doit vivre les Ma'ala Minazman, au-delà du temps. Donc ni tu vas prendre ton temps, ni tu vas donner le temps au temps, ni tu vas venir de temps en temps. Tu vas t'y mettre, tu vas travailler, tu vas avancer. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la règle des choses. À l'intérieur de toi, tu es non-temps, la Neshama, elle est en dehors du temps. Ton travail à toi, c'est quoi? C'est de sanctifier la matière et l'espace pour fabriquer de l'intemporel dans le temporel. Et si vous allez me dire, mais c'est trop abstrait, c'est trop mystique. Mais quand vous vivez quelque chose de vrai et d'intense, vous n'avez pas remarqué que vous ne sentez pas le temps qui passe? Quand vous êtes folle amoureuse, quand vous êtes fou amoureuse, quand vous vivez des moments de bonheur, quand vous vivez des moments d'intensité, quand vous vivez des moments de maturité, vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a plus de temps? C'est incroyable. Il n'y a plus de matière. Quand tu vis quelque chose de vrai, tu n'as pas remarqué que tu n'as plus faim. Quand tu es heureux de ce que tu fais, tu n'as pas remarqué que tu n'es pas fatigué. Parce que la fatigue, elle vient de la matière. La faim, elle vient de l'estomac. Mais tu n'es plus dans l'estomac maintenant. Tu es dans l'essentiel. Donc tu n'es plus dans le temps. Tu n'es plus dans la matière. Et ça, tu le contiens puisque c'est ta Neshama. Maintenant, si tu as pris l'énergie de la Neshama, que tu as fait un circuit qui est entièrement gardé au Shmartem et Tamatzot, et que tu amènes cette intensité qui va s'appeler sincérité, qui va s'appeler motivation, qui va s'appeler investissement, tu arrives à l'amener jusqu'à la réalité. Mais tu deviens un fusil laser. Rien ne peut t'arrêter. Personne n'osera te regarder. Vous avez déjà vu quelqu'un qui regarde un tzadik dans les yeux? Tu peux pas le regarder. C'est pourquoi? Parce qu'il existe trop. Il existe trop. Tu peux pas le regarder. Normalement, on dit, les gens ils disent toujours, mais comment il ose regarder son père dans les yeux? C'est vrai, normalement, un enfant, il ne peut pas regarder son père dans les yeux parce que son père, il existe. Alors que lui, il est en phase d'existence. Et quelqu'un qui existe, et à travers les yeux, on voit la Neshama. Normalement, le père qui existe, on peut pas regarder dans les yeux parce qu'il existe. Hein, tu me dis, pourquoi aujourd'hui les gens, ils osent regarder leurs enfants, leur père dans les yeux? Aujourd'hui, ils appellent ça la défection. La défection parentale. Parce que les parents n'existent pas. Alors, ça ne les dérange pas, les enfants, de les regarder dans les yeux, puisqu'ils ne voient rien dans les yeux. Enfin, je généralise. Rasé Shalom, c'est beaucoup plus pire. Enfin, non. C'est pas grave, ma chérie, il va arriver, mais n'en faites pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose extraordinaire. Qu'à l'intérieur de soi, on contient du non-temps. Notre travail à nous, c'est de projeter du non-temps. Vous savez comment on s'appelle? Le résultat de l'irradiation du non-temps dans la matière. L'acquisition du monde futur. C'est ça le monde futur. C'est quoi le monde futur? De toute façon, les actes, on va les faire. Tout le monde va faire les mêmes actes. Vous avez compris? Tout le monde va manger, tout le monde va dormir, tout le monde va aller avec sa femme, tout le monde va aller à table, tout le monde va aller en vacances, tout le monde va travailler, tout le monde va étudier. Tout le monde! Mais il y en a un, il va sanctifier le temps. Et ce temps, il va devenir intemporel. Comment s'appelle ça? Une mitzvah. Le même, il n'a rien fait. Il a bouffé, il a dormi, il a fait des enfants, il a fait une maison, il a fait un magasin et il a fait un cercueil. Et voilà. C'est bizarre, hein? Comme elle dit la Mishnah. Em ratzim, vanachnu ratzim. Eux, ils courent et nous, on court. Nous, on court pour aller étudier la Torah et eux, ils courent pour gagner de l'argent. Et pourquoi celui qui étudie la Torah, il mange pas? Il mange pas. Il marie pas ses enfants. Il va pas en vacances. Ah, pourquoi t'as couru? Pourquoi tu cours? Exactement pareil. À partir du moment où quelqu'un comprend ça, il comprend une chose incroyable. C'est que quand la Torah elle a demandé à un juif de manger la matzah le soir de Pessah, c'est parce que le soir de Pessah, c'est le soir de la sortie d'Égypte. Or, on a expliqué déjà plusieurs fois que la sortie d'Égypte, c'est la sortie des limites. Un homme, toute sa vie, il sort de ses propres limites. Parce que Mitzrayim, c'est le même mot que Mitzarim. Et Mitzarim, ça veut dire limite. Maintenant, c'est même pas la peine de rêver que le soir de Pessah, tu vas sortir de tes limites si tu n'as pas détruit ton manque, c'est le Hametz. Et si tu n'as pas construit la Matzah.
Maintenant, le soir de Pessah, c'est quoi manger la matzah? C'est faire corps avec la matzah. Vous n'êtes pas demandé. Imagine, tu manges quelque chose. Il y a une partie qui reste en toi et il y a une partie qui disparaît aux toilettes. Mais la partie qui reste en toi, elle fait partie de toi. Maintenant, tu sais ce qui va aux toilettes, le superficiel. Tu sais ce qui reste en toi, l'essentiel. Maintenant, si tu ne manges que de l'essentiel, l'essentiel, il fait partie de toi. T'es devenu essentiel. Il n'y a pas de déchets. C'est pareil. Il y a des gens dans leur vie, il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets. Comme les Indiens avec le bison. Avec la chair, ils faisaient ça. Avec la peau, ils faisaient ça. Avec les os, ils faisaient ça. Avec les cornes, ils faisaient ça. Et ben, il y a des gens, dans leur vie, il n'y a pas de déchets. Dans leur enfance, il n'y a pas de déchets. Dans leur adolescence, il n'y a pas de déchets. Dans leur adulte, il n'y a pas de déchets. Dans l'éducation de leurs enfants, il n'y a pas de déchets. Dans leur couple, il n'y a pas de déchets. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que de l'essentiel. Or, l'essentiel, quand tu l'absorbes, il fait corps avec toi. Quand toi, tu fais corps avec l'essentiel, c'est parce que tu es devenu essentiel. Et l'essentiel, il est essentiel pour toi. Alors, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Donc, quand la Torah, elle a demandé à quelqu'un de manger la matzah le soir de Pessah, on a compris pourquoi celui qui la mange pas, il est hayav karet. Parce que karet, c'est quoi? Karet, c'est retranché. Retranché du peuple juif dans ce monde-ci et dans l'autre monde. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de lien avec la plénitude, un soir par an, il fait pas partie du club. Puisque c'est quoi le monde futur? C'est le monde où se retrouvent les énergies essentielles qui ont été révélées dans ce monde. Maintenant, celui qui n'a pas révélé l'essentiel, qui n'a pas atteint l'essentiel, il n'y a pas de superficiel là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est quoi la matzah? C'est un bout de la mabah. Puisque c'est que de l'essentiel. Or, comment tu l'as atteint, l'Olam Haba? En dépassant tes limites, en sortant d'Égypte. Donc, le soir de Pessah, tu dois manger la matzah. Et pas seulement pour commémorer le fait qu'ils sont sortis en vitesse. Ça va ?